Vous écoutez
RMC.
RMC.
Comment on dit un mensonge en anglais?
Good luck.
4 occasions franches, 5 tirs au but, 14 centres. Ah, ça va, ils n'ont pas non plus joué avec le reculoir, quoi.
Jimmy Brown, l'after foot face au Tchad. Bah, ah, bam.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Et oui, on est là. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Génération After, comme tous les soirs. RMC de 20h à 22h. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast et nous regarde sur After Foot TV. Ce soir, autour de la table, les titulaires. Kevin Diaz est là. Salut, KD.
Salut à tous.
Walid est là aussi, Walid Acharchour, bonsoir Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Et il lance sa saison ce soir sur l'antenne d'RMC. Jimmy Brown est là, salut Jimmy.
Salut les gars, ravi de vous retrouver, d'être assis à côté du co-leader du National 2, c'est un honneur.
C'est incroyable,
c'est un honneur.
Il va falloir qu'on en parle quand même.
Il arrive à 19h, on ne l'a pas vu une seconde. Mais, et
t'as vu maintenant comment ça on l'interprète?
Pour remettre un coup de collier la deuxième partie de saison.
Et moi je vais mettre un coup de contexte quand même.
Ouais.
Le directeur sportif des Samoritano, c'est avec nous ce soir.
Exactement, ça fait quand même un honneur.
Promu en National 2, déjà un exploit de monter en National 2.
Après, Gilbert va dire que c'est moi qui parle de ça, moi.
Aujourd'hui, co-leader de National 2 après 3 journées.
Avec très peu de moyens, encore une fois.
Il a battu le Istres de Fouad Kadir ce week-end.
C'est fort.
Fouad Kadir était là.
Il a arraché un match nul contre Cannes en sur
Nico Jamin était là aussi.
Moi je suis CM maintenant, non officiel, Saint-Maur. Voilà.
Cannes avec des propriétaires multiples.
Il a battu les Friedkin. Non, il a fait nul contre les Friedkin.
Nul face aux Friedkin.
Où est-ce qu'on Kevin Diaz face aux Friedkin. Faut se rendre compte quand même.
Où est-ce qu'on va arrêter.
Sans intendant en plus.
Sans intendant.
Non, mais on rigole, on troll un petit peu, mais c'est extraordinaire.
Non, mais c'est super.
Un début de saison exceptionnel.
Vous la montez en.
Absolument pas.
Non.
Non, je le maintiens plus que jamais.
D'accord.
Ça me fait bizarre quand même d'être allé voir un match de National 2 de Saint-Maur en me disant, équipe de Kevin Diaz, en me disant que les Girondins jouent dans la même division.
Ouais.
Ça m'a fait mal quand même.
Ouais. Il va falloir que tu sois sur la raison quand même.
Qu'est-ce que ça va être quand ils seront en National et qu'ils seront encore en N2 ouais.
Quand tu vas jouer les petits Girondins en coupe.
Non.
C'est parti pour Génération After ce soir au programme. Le Marseille, le capitaine Léo Ballardi. Va-t-il devenir remplaçant à l'OM? Ce sera chaud dans un instant le débat. On sait ce que pense Kevin de Ballardi. On en débattra avec vous au 32-16 également, Walid et Jimmy. Lille est-il le grand gagnant du mercato? Financièrement, balance dans le vert, dans le très très vert, même vert vif. Et des très bons choix, on va en parler. Igaman aux côtés d'Olivier Giroud, Benjamin André qui est resté. L'effectif au complet malgré beaucoup de départs. Et puis Lyon aussi au programme. Peut-il tenir sur la durée avec un effectif peu profond, avec le seul Satriano arrivé sur le front de l'attaque pendant ce mercato, surtout après le départ de Mikko Tadzel. Aussi on vous attend nombreux au 32 CR, supporters de l'OL. Et puis bon, l'abonné, désormais abonné du Paris FC, veut faire un avis pour lancer sa saison à l'antenne, Jimmy Brown ce soir.
Absolument. Jean-Brun ce week-end, c'était une très belle.
Abonné déjà en colère.
Après sa fin d'expérience.
Réussi
dimanche contre Metz. Il vient nous parler du projet.
Je suis très très content parce que.
Mais déjà un abonné en colère parce qu'il dit où est l'expertise Red Bull dans mon club, le Paris FC.
Attention,
j'irai pas jusqu'à mon club quand même. Abonné, parce qu'on peut aller voir du foot. On a la chance de pouvoir voir du foot à Paris intramuros toutes les semaines. Donc on.
Mais attention, parce
que c'est la première fois que je vois un abonné qui est pas supporter.
Non, moi j'aime le foot. J'ai amené mon gamin. Je suis pas.
À part ceux qui sont.
Dont
des amis à moi qui sont abonnés au PSG juste pour l'oseille et pour se faire des plus-values.
Ouais.
Mais sinon, c'est rare quand même d'être abonné si t'es pas super.
Est-ce qu'on peut autoriser un abonnement sur deux clubs? Moralement?
Ouais, écoute.
On pose question, c'est un vrai débat.
Je vais régler ce problème très vite. C'est que le PSG, ça joue souvent le soir et que moi, c'est pour amener mon fils au stade et que malheureusement, je peux pas l'amener au Parc des Princes, très rarement. Le PFC, la programmation fait que ça va souvent être le dimanche 15h ou le dimanche 17h15. Donc c'est.
Le risque, c'est que ton fils bascule par FC. Hein.
Attention à cet argument de fan, un peu comme. Tu sais, c'est un peu le papa qui va voir une star et qui dit non, c'est pour mon fils en fait, alors que c'est lui qui est fan. Attention à l'excuse du fiston pour aller au PSG.
Je m'en suis jamais caché ici. Je suis supporter du PSG, ça fait 20 ans que je suis abonné au Parc. C'est pas pour autant que quand on a la chance d'avoir un deuxième club parisien en Ligue 1, on peut pas aller les voir.
J'ai déjà dit Jimmy.
Voilà. Il y a le Red Star la semaine prochaine, tu viendras avec moi.
Et puis toi, par exemple, tu vas au Red Star un peu.
Bien sûr,
Walid, tout le monde sait que tu vas plus voir.
Il a lâché le Red Star.
Tout le monde sait que tu vas plus voir le Red Star.
Stop. Pas du tout.
Les amis, Gilbert attend patiemment son tour. L'after à 22h.
Salut les gars. C'est vrai que le Red Star conclut un beau partenariat avec RMC.
En plus, on ira à Beauvoir cette année aussi.
Et
on ira à Saint-Maur voir Kevin.
Exactement.
On ira partout pour ces 20 ans.
Nous sommes des soutiens actifs du Red Star, RMC.
Et gros début de saison, Red Star. Belle victoire contre Annecy. Hein.
Alors, non, mais il faut quand même qu'on fasse gaffe parce que je reçois des mails réguliers de supporters. J'en ai reçu de Auxerre, du Havre et d'Angers qui me disent c'est quand même bizarre, vous parlez plus de Saint-Maur que de mon club.
Et en fait, à la réflexion, c'est pas faux.
Ouais. Hey, je tiens à dire que ça ne vient pas de moi.
Il
bon.
Y a un petit jeu, il y a un petit jeu avec Kevin.
Un petit comique de répétition.
Bon, 22h. Fabrice Hawkins sera là parce qu'il sort un bouquin sur les coulisses des deux dernières saisons du PSG. Vous allez apprendre pas mal de choses sur la saison dernière, les difficultés, les célébrations. Pas mal de choses également sur la gestion de Mbappé, la dernière saison de Mbappé, ce qui s'est passé en coulisses. Révélation donc de Fabrice tout à l'heure à 22h dans l'after. Vous allez voir, ça va être passionnant. On va également parler des difficultés lyonnaises avec des éléments économiques que nous apportera Nicolas Pelletier, plus Deschamps. Parce que Deschamps, il dit ouais, c'est comme ça, c'est ma dernière année. De toute façon, en France, quand tu restes longtemps quelque part, on ne peut plus voir ta gueule au bout d'un moment. Ouais, il commence bien sa dernière année, quoi. On va voir si on est d'accord avec lui ou pas. Et puis qu'est-ce qu'on a?
Qui a toujours soutenu Deschamps après avoir.
Et puis Deschamps, il auto-analyse, l'autocritique, pas trop son truc.
En effet. Opta, vous savez, Opta, les spécialistes des stats dans le foot, ouais, il est fan. Ils ont fait leur projection sur le classement de la saison. Donc on vous le dévoilera tout à l'heure.
Ah, c'est intéressant ça.
On verra ce qu'on en pense. Et puis on verra surtout comment ils font leur calcul, parce que c'est bien gentil tout ça, mais.
Quand même, le PSG est premier.
Et bah, oui, là, je suis
la surprise. La surprise surtout, c'est qu'ils mettent Marseille 5e dans leur classement provisionnel. Donc ils vont nous expliquer
comment ils construisent ça.
Voilà, comment ils font ça.
Exactement. Et puis du coup, ben, nous, on s'amusera aussi à faire nos prévisions. Mais là, c'est pas statistique. C'est tu vois, c'est, il y a de l'humain, il y a de la chair, il y a du ressenti, il y a de l'analyse. Ouais.
La vision.
La vision. Voilà, la vision.
Bah, c'est l'expertise.
Bah, c'est l'expertise qui parlera.
Ouais.
Et puis
on gardera ça en boîte pour la fin de saison quand même.
Et puis notre nouveau, bien évidemment, t'inquiète pas que Jimmy, il a déjà tout. Et puis notre nouveau rendez-vous du mardi soir, le dialogue direct avec le chat YouTube, avec les SMS de l'after, car nous avons un nouveau numéro SMS.
C'est un peu mieux cadré que la dernière,
le numéro WhatsApp. Un peu mieux. 0612 424 424.
C'est fort.
Évidemment.
C'est fort.
C'est le numéro que vous pouvez joindre. D'ailleurs, j'ai un message, Gilbert, pour toi de Max.
Ouais.
Dis bonsoir à l'after, la bise à Gilbert, car je vous écoute en direct d'Aktao au Kazakhstan.
Ah, énorme.
Ça, c'est fort. Ça te plaît, ça.
Surtout que c'est un petit bled, ça. C'est pas, là, t'es pas Almaty, là. Là, il est dans la steppe, là. Voilà. Là, c'est du moins 30 en hiver, là.
Ben, bravo et bonsoir à toi, cher Max. Merci, Gilbert. À tout à l'heure pour l'after. 32-16 ouvert, vous le savez, vous nous appelez pour vous mêler au débat, bien sûr. Je rappelle également qu'on est en vidéo direct, vidéo sur la chaîne YouTube et sur Afterfoot TV. C'est parti donc pour Génération After. On commence par Marseille. On voulait anglais sur Balerdi ce soir parce qu'effectivement, ce mercato a été riche côté marseillais, surtout en défense et en défense centrale. Le capitaine argentin voit débarquer une grosse concurrence. Naïef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina, CJ Egan Riley, Amir Morillo qui est déjà là. 6 hommes pour 2 places a priori, puisque De Zerbi aurait dans l'idée de jouer avec une défense à 4. C'est ce qu'il a fait pendant la prépa, ce qu'il a fait depuis le début de la saison en Ligue 1 sur les 3 matchs pour l'instant cette saison. Question ce soir, Balerdi doit-il être relégué sur le banc, lui qui a été, hein, je le rappelle quand même, il y a quelques semaines, déclaré intransférable par Pablo Longoria, par Mehdi Benassia également, et à qui il reste 3 ans de contrat. Que faire avec le capitaine Léo Balerdi? A-t-il encore son rond de serviette entre guillemets au sein de la défense centrale de l'Olympique de Marseille? 32-16 pour en débattre. Je vais commencer avec toi, Kevin, parce que c'est un sujet épidermique chez toi, Balerdi.
Absolument pas. C'est Walid qui va commencer parce que.
Préfère.
Bah bien sûr, c'est à Walid de répondre.
Pardon, moi, c'est lui qui décide.
Moi c'est.
Parce que tu estimes, en fait, tu estimes que à l'arrivée t'as raison, voilà. Et que donc maintenant t'attends Walid pour le cueillir au coup du bois.
Enfin, moment, il peut répondre quand même à la question.
Il y a un moment.
En fait, c'est moi qui pose des questions.
Il y a un moment, les gars.
La pige, elle est payée.
Quand il pleut,
Kevin, quand il pleut, il pleut.
Quand il fait beau, il fait beau.
Mais tu vas faire ton boulot ce soir.
Il pleut.
Il y aura ça cette saison-là.
Ok, il pleut, donc vas-y.
Non, parce que sinon,
vas-y.
Non,
il pleut sur Balerdi, c'est à Walid de cueillir. J'avais dit à Najib cet après-midi quand on a parlé du sujet.
Quand il a,
c'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
Le WhatsApp, il est disponible.
Des dimanches,
on peut démarrer l'émission, les gars.
Ouais. Vas-y.
Allez.
Non, mais tu veux que je réponde, moi? Pour moi, vas-y, non. Walid. Balerdi ne doit pas être remplaçant à l'Olympique de Marseille. Il fait un début de saison qui est cataclysmique. De toute façon, il faut avoir des yeux pour le voir, hein, tellement c'est flagrant depuis le début de saison. Il est fautif contre Rennes, il est fautif contre le PFC, il est encore fautif sur l'expulsion de Egan Riley. Lui-même a dit qu'il en prenait la responsabilité. L'année dernière, déjà, son début de saison avait été compliqué et derrière, il avait réussi à rehausser son niveau. On avait même eu pas mal de débats sur son rôle de capitaine. Est-ce que c'était une tâche un peu plus importante en termes de pression à l'Olympique de Marseille? Maintenant, moi, ce que je demande à Balerdi, bien évidemment, c'est de
lavé ce début de saison à l'image de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ce qui s'est passé après Rennes, notamment avec Rabiot et Rov et tout le contexte marseillais a pu jouer? Je sais pas, mais en tout cas
c'est fou, Rov.
C'est Ro, Ro,
Ro, Ro. Il est parti, oui. En plus on peut arrêter
vrai,
Ro.
Ouais, Ro, 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 pardon, parce que j'avais entendu pas mal de personnes
à Marseille, certains l'appellent Rov.
OK, donc on va l'appeler Jonathan Ro. Mais est-ce que à l'instar d'autres leaders avec un Højbjerg que je trouve pas bon non plus, un Roulis qui est un peu moins bien, et même tout l'Olympique de Marseille qui fait un début de saison très très compliqué, est-ce qu'il doit pas bien évidemment hausser son niveau de jeu sur le retour de trêve? Ça c'est une certitude. Maintenant moi je trouve qu'avec les arrivées de Pavard et de Hagern, il va être bien outillé, et de Medina faire son boulot à l'Olympique de Marseille. Moi, même si je sais que Kevin va dire qu'il a raison, etc., moi je reste persuadé que Balerdi a des grandes qualités pour être un défenseur central à Marseille. Tu fais pas 5-6 ans à l'Olympique de Marseille avec 5-6 coachs différents en étant une pipe. Maintenant c'est vrai que il y a des gros red flags sur Balerdi. Souvent il manque de fiabilité à des moments clés. J'espère qu'avec les renforts, parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière et encore sur le début de saison, il a joué avec des Murillo, avec des Cornelius, avec des joueurs qui
avec pour moi Kondogbia parfois. Le paradoxe, c'est que moi je pense que c'est une bonne nouvelle les recrues pour lui.
Avec des joueurs qui n'étaient pas au niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, et peut-être que ce rôle de leader est beaucoup trop grand pour lui. Mais avec les arrivées que je viens de citer, je pense que Balerdi peut constituer un élément fort de cette défense marseillaise, et il faut pas l'enterrer pour moi.
Kevin. Non, mais c'est pour ça que je voulais voir si Walid avait allumé la lumière. Mais il y a un moment, tu l'as dit, ça fait 5 ans qu'il
est... Tu l'as allumé ou pas?
Non, toujours pas. Ça fait 5 ans qu'il est en Ligue 1, Léo Balerdi. Ça doit être un bon gars, un gars qui s'entraîne fort, un gars qui a un bon état d'esprit, sinon il aurait pas joué avec les différents entraîneurs, pas de problème. Mais ce que je me tue, moi j'ai rien contre Léo Balerdi en fait. Je l'ai jamais rencontré, j'ai pas de problème avec lui. Le problème, j'explique à Walid, on fait l'after depuis plus de 3 ans ensemble, et je lui explique des choses factuelles. Tu ne peux pas être un bon joueur de haut niveau si tu fais une erreur grossière. Je dis pas une demi-erreur, une erreur grossière tous les matchs. Il y a pas un match où il fait pas une erreur grossière. Ah, j'exagère, il y a peut-être 4-5 matchs dans l'année. Des fois l'erreur elle est sanctionnée par un but, un carton rouge. C'est un des joueurs qui a pris le plus de cartons jaunes en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. Des fois l'erreur elle n'est pas sanctionnée parce que le gars rate sa passe, parce que le gars rate sa frappe, parce que le gars fait le mauvais choix ou parce qu'elle est rattrapée, ce qui a failli être le cas par Egan Riley comme ce week-end par un coéquipier. Mais tu ne peux pas être un cadre capitaine du deuxième ou troisième club de Ligue 1 si tu fais une erreur qui peut coûter un but à tous les matchs.
Exagère un peu tous les matchs.
Allez, à 70% des matchs que tu joues.
Kevin, t'es souvent là pour les enterrements, jamais pour les mariages, quand il s'agit de Balerdi quand même.
Non, pas du tout.
Balerdi, quand il fait un bon match, tu le suis rarement, ça lui arrive de faire des bons matchs quand même.
Mais il a même fait une bonne saison l'année dernière. Il fallait le vendre en fait. C'est pas un gars qui est régulier. Donc, ils l'ont fait pour Luis Enrique. Ils ont eu la lucidité.
Jimmy, il a raison. T'es sur messagerie.
Je peux finir.
Quand ça se passe bien pour Balerdi, t'es sur messagerie.
Je peux finir.
Par contre, dès que Balerdi fait une erreur, t'envoies un message à toute la terre.
Laisse finir, Kevin.
Je suis rarement sur messagerie.
Vas-y, Kevin.
Soit je t'envoie directement sur messagerie, mais c'est autre chose.
Allez.
Mais Leonardo Balerdi, son problème, c'est que il fait une bonne saison l'année dernière.
Et l'année d'avant aussi. Quand ils font huitième, il est très très bon en Europe.
Oui, ils font huitième.
Oui, enfin, il n'est pas
d'accord. Donc, en fait, je n'ai pas dit que c'est un mauvais joueur. J'ai dit que ce n'est pas un joueur pour l'OM depuis le début.
Oui, il y a un manque de fiabilité.
Toi, tu m'as même dit qu'il allait finir à l'Inter, à la Juve ou à l'Atlético Madrid.
Je continue d'y croire.
Ok.
Je continue d'y croire.
On verra. On verra. Mais c'est pas rien. Luis Enrique, il est à l'Inter, il n'a pas le level. Il n'a pas le niveau de l'Inter. Mais il y est. Très bien. Donc l'OM. L'OM aurait dû faire comme ils ont eu la lucidité de faire avec Luis Enrique. T'as une période catastrophique. T'es venu, tu sors de nulle part, tu fais une saison correcte, allez hop, on prend le chèque, ciao. Et là, ils m'ont sorti. Mais bien sûr, c'est. Comment?
C'est le même style de joueur que Luis Enrique, Balerdi.
Je ne dis pas que c'est le même style de joueur, je dis qu'il aurait dû avoir le même style de projet pour lui. T'es bon depuis un an, allez, tu veux dire plus d'un an? Merci. on serre la main, merci.
Ouais, mais
au
Kevin, on dit tout le temps, c'est toujours la machine à laver à l'OM, ils n'arrêtent pas de changer de joueur.
D'accord, mais c'est ça qui va pas. C'est qu'en fait, c'est la machine à laver, le seul mec qui déteint sur tous les autres, le seul t-shirt rouge dans le blanc, le mec qui te le laisse dans le club, non, ça fait 5 ans.
Donc tous les mots de l'Olympique de Marseille,
pas des mots. J'ai dit qu'il y a quelques machines qu'il a fait mettre en rose, c'est ça, c'est clair.
Donc ça veut dire que ce qui se passe autour avec Kondogbia, Cornelius, Murillo,
ils l'ont mis capitaine.
Ça, c'est autre chose.
Ils ont dit qu'il était intransférable.
C'est débat. Est-ce que le capitaine est trop lourd? Moi, je peux te rejoindre.
C'est même le rôle de titulaire indiscutable. Il est trop lourd.
Sur le manque de fiabilité, c'est vrai que, moi, encore une fois, tu regardes le match de Lyon, il te crève. Il y a beaucoup de matchs
où il peut. Le début de saison, il n'est pas bon.
Il n'est pas bon du tout. C'est une réalité. Mais maintenant, je te dis, si tu m'expliques, on sait très bien que le métier de défenseur est le métier le plus compliqué aujourd'hui parce que tu fais une erreur, tu peux tuer ton match pendant 90 minutes. Tiens, au passage, sa deuxième mi-temps, elle n'est pas si mauvaise que ça.
Mais je n'ai jamais dit qu'il était mauvais de 4 sur 90 minutes.
Sauf que nous, on est aussi dans l'analyse, on est des observateurs et on doit parler d'un point de vue global sur toute la rencontre. Et oui, c'est vrai qu'il y a des facteurs temps avec Balerdi où parfois, je dirais pas tout le temps, parfois, et ben quand ça pue, il est souvent
mais parce que le rôle de leader de défense, Walid, je pense qu'il n'est pas taillé pour ça. Et qu'avec les mecs qui vont arriver, d'être le coéquipier d'un Aguerre, d'un qui a de l'expérience, de Medina, qui va lui apporter même de Pavard, je pense que ça va l'aider à progresser.
Ceci, on part du principe que, après la liste que j'ai égrenée, hein, Aguerre, Pavard, il y aura deux défenseurs centraux, une charnière à deux, hein, cette saison.
Est-ce qu'on est sûr de ça, ad vitam aeternam?
On n'est jamais sûr. Il l'a fait tout l'été, il l'a fait
en cours de saison.
Est-ce que les six désormais vont le faire basculer dans une défense à 3, peut-être.
Très peu.
Donc, pour vous, Aguerre, c'est un gaucher. Hein, ouais. Genre de Balerdi, d'accord. Il faut tenir compte de ça, hein, droitier et gaucher, hein, les amis. Hein, s'ils sont deux, surtout.
C'est en concurrence avec Pavard.
Pavard, Aguerre, Medina. Pour vous, il passe devant ces gars-là, Balerdi, aujourd'hui.
Peut-être qu'il joue avec les trois. Moi, je pense qu'il peut jouer.
Sur l'hypothèse d'une défense à 4.
Même la défense à 4, tu peux
jouer. Est-ce qu'il passe devant Aguerre et Pavard? C'est la question.
Mais Pavard, pour moi, il n'y a pas de défense.
Il peut jouer à droite, Pavard.
Il jouera latéral droit. Avec moi j'ai déjà dit
hier, il faut jouer latéral.
Mais pour moi il fera
qui se bat depuis des années pour
alors 4 centraux.
Moi pour moi il fera la défense de 4 centraux comme Arteta,
moi,
comme
de toute façon
là quand il a mis Gvardiol sur un côté notamment, Akanji ou Ake sur un côté. Moi je pense que dans les gros très très gros matchs, il jouera avec Medina à gauche,
ça
il jouera avec Pavard à droite.
Balerdi pourra toujours te crever en tant que
central. Ça c'est une réalité, il y a pas de souci, mais je pense que le chantier des défenseurs centraux à l'Olympique de Marseille, le problème n'est pas Balerdi. Le problème, c'est
là,
les
en l'occurrence, on parle de Balerdi. Je n'ai jamais dit que c'était le problème numéro un de l'OM.
On a compris ton avis sur Balerdi. On le partage en ce moment parce qu'il est cataclysmique. Maintenant, si on doit prendre du recul avec ce que vient de dire Nico Jamin, c'est la question, est-ce que Balerdi doit être remplaçant avec les nouveaux arrivés à l'Olympique de Marseille? Tu réponds quoi, toi?
En tout cas, il ne doit pas être titulaire indiscutable et capitaine.
Mais bien évidemment. C'est-à-dire que sur le côté titulaire indiscutable, tu nous apprends rien. Il doit être challengé comme tout le monde.
Quand t'es capitaine, t'es censé être titulaire indiscutable.
S'il est pas bon, bien évidemment.
Il est pas bon en ce moment.
Kevin, il le sait déjà, ça. Voilà.
Non, mais c'est-à-dire que s'il est pas bon sur la durée, il y a des alternatives aujourd'hui pour se passer de Balerdi.
Et encore une fois, ce qui est très paradoxal avec Balerdi, ce n'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui fait des erreurs. Constamment, en fait. C'est comme si tu me dis, c'est un bon gardien, mais il te coûte un but par match. Mais c'est pas un bon gardien.
Non, il te coûte pas un but.
Il a pointé à juste titre. Moi, je suis d'accord avec Kevin. C'est vrai. Le constat, il est factuel. Sur le début de saison, il a planté Marseille. Sur deux matchs, sur trois matchs, même peut-être.
L'année dernière, contre
il a été responsable.
L'année dernière, il fait pas une saison.
Et moi, là où je rejoins Wadid, c'est que son partenaire de défense, il a pas joué avec des mecs très haut niveau comme les mecs qui sont en train d'arriver là. Et je pense que ça peut te faire progresser, ça peut te rendre plus à l'aise sur le terrain.
Sûrement.
De pas avoir la responsabilité d'être toi le leader de défense. En plus, il a le brassard, comme tu dis, c'est une responsabilité. Ça fait peut-être beaucoup pour lui.
Moi, c'était une erreur, je l'ai dit
aussi. Ça va le soulager. Moi, je pense que ça va le soulager d'avoir un mec comme Aguerre, d'avoir un mec comme Medina, d'avoir Pavard. Ça va soulager Balerdi et ça peut le rendre meilleur.
Le métier d'être défenseur central de l'Olympique de Marseille avec le brassard de capitaine en jouant à 40 mètres de ton but.
C'est beaucoup.
Mais moi, sincèrement,
c'est dur à porter.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs.
Et la question, c'est est-ce que lui, il est capable de jouer à 40 mètres de son but, justement?
Il a les qualités d'un défenseur moderne pour moi. Le problème de Balerdi, et je l'ai toujours dit, c'est qu'il est beaucoup trop ambitieux dans son jeu. C'est-à-dire que, à partir du moment où, et là, sur ça, moi, je rejoins Kevin là-dessus, c'est qu'il a pas progressé. C'est-à-dire que dès qu'il voit qu'il y a un mec, qui, physiquement, peut lui rouler dessus, bah, il joue de la même manière, en étant très proactif défensivement, en défendant en avançant.
Il est un peu kamikaze.
Sauf que le problème, que quand t'es dans une défense à 4, comme c'est le cas depuis le début de saison, et bah, si tu te trouves derrière, il y a des espaces béants et t'es en grande difficulté. Donc ça, il va falloir que Balerdi, bien évidemment, retrouve sa lucidité, retrouve sa forme, retrouve son mental. C'est bien beau de dire en zone mixte, je prends la responsabilité du carton rouge d'Egan Riley, mais il ne pourra plus faire ces erreurs-là, surtout que Balerdi, là, on va aussi l'attendre en Ligue des Champions. Moi, j'avais été agréablement surpris de ce qu'il avait fait en Ligue Europa, l'année où ils font demi-finale contre l'Atalanta, où il avait été très bon contre Benfica, contre le Shakhtar, contre Villarreal notamment. Ça va être à lui, même si au retour, il n'avait pas été bon.
C'est quoi pour toi un bon défenseur? Un bon défenseur, c'est un défenseur qui gagne des duels.
Je réponds dans un instant, faut qu'on fasse une pause. Okay. Et on aura Kevin également au 32-16. Vous donnerez, vous, là, sur le papier, en tout cas pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments, votre défense idéale à l'Olympique de Marseille pour cette saison, maintenant que le mercato est terminé. Kevin, attends, on arrive dans quelques secondes avec toi, et puis on va essayer de régler le petit problème de son qu'on a sur notre chaîne YouTube de l'After. Reste avec nous, la suite de Génération After, avec Kevin Diaz, Wade Chercheur et Jimmy Brown, 20h21, à tout de suite.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, oui, la chercheur Jimmy Brown, début de Génération After, un peu chaud, un peu dissipé même. C'est plus que chaud, dissipé. Kevin, tu parles un peu trop sur Walid, et Walid, tu parles un peu trop sur Jimmy. Que Jimmy qui est discipliné.
Il me posait la question, qu'est-ce qu'un bon défenseur? Bon,
oui, alors tu vas y répondre et après j'accueille Kevin. Tu as réfléchi à ça ou pas?
Oui, bah pour moi, encore une fois, les qualités de Balerdi, je trouve que dans l'anticipation, dans la relance, dans ce qu'il impacte, même athlétiquement, quand il est très très bon avec l'Olympique de Marseille, il fait souvent des matchs pleins.
Mais c'est quoi un match plein?
Un match plein avec une erreur ou deux.
C'est un mec qui gagne les duels ou pas?
Oui, il gagne beaucoup de duels.
Il gagne des duels sans faire des fautes?
Pas tout le temps, mais il gagne beaucoup de duels.
Moi,
je l'ai vu faire un match l'année dernière monstrueux face à Balogun ou Mbolo à Monaco.
Faut vraiment que tu regardes. Si tu veux, un jour, on se pose, ouais, on regarde.
Bien sûr.
Le gars, ouais, à chaque fois qu'il fait un duel, bien sûr, il a de l'agressivité, la grinta, pas de problème. Il fait énormément de fautes. Des fois, elles sont sifflées, des fois, elles sont pas sifflées. L'art de faire faute sans faire faute, j'aime beaucoup. C'est aussi sa défendre. Il fait beaucoup de fautes. Il prend beaucoup de cartons.
Avec le ballon, je trouve très pertinent.
Avec le ballon, pas de problème.
Il est très important dans le système.
Il est
de
très bon avec le ballon. Ça, il n'y a pas de souci. Très bon relanceur. Il
c'est
a
les
pas peur.
On aime ça, non?
D'accord, mais moi j'aime, mais il y a un moment, tu peux pas soit faire une erreur grossière d'alignement, il s'aligne comme un U13 district, très souvent, notamment tu regardes le but encaissé par Rennes,
je suis d'accord,
où il sort, mais c'est complètement dingue de sortir à la dernière minute comme ça. Bref, c'est pas la première fois, il fait beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes.
Il est dans une séquence très compliquée.
Mais c'est depuis qu'il est à Marseille,
Non, c'est pas.
Il prend en moyenne 10 cartons par an.
Kevin.
C'est énorme, 10 cartons par an.
De Balerdi. On va pas refaire l'histoire. Je vais accueillir Kevin au 32-16, supporter de l'OM. Salut Kevin.
Je suis en train de bouillir. Merci de me prendre.
Salut Kevin. Et merci de ta patience, Kevin.
Salut Kevin.
Salut. Bah, j'espère que vous allez me laisser finir.
Vas-y, pour moi,
c'est chaque année, c'est la saison de trop avec Balerdi. Il faut le vendre absolument. Le costume est trop grand pour lui, surtout en étant capitaine. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, Walid, si tu regardes le match contre Lyon, qu'est-ce qui fait à sortir sur Tolisso comme si Tolisso c'était Messi? Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là, comme si ton histoire est des six joueurs, mais reste en défense. Et toutes les actions qu'il fait là en début de saison de l'année dernière, elles sont sauvées par Rudy. Parce que Rudy était stratosphérique l'année dernière en début de saison. Donc il fait énormément d'erreurs, ce joueur. Il fait énormément d'erreurs et le costume est trop grand pour lui. Donc quand je vois Benassia parler avec Longoria, je me dis, on prend un défenseur central. Non, oui, mais non, eux, ils en prennent deux. Et s'ils en prennent deux, moi je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, je pense que Balerdi a perdu la confiance des dirigeants et qui se posent beaucoup de questions. C'est pour ça.
Après
que
avoir dit Kevin, il y a à peine deux mois et demi, il est intransférable. C'est l'incarnation du projet marseillais. Il est arrivé en 2020. C'est l'identité de l'OM.
Mais non, mais c'est pas vrai. C'est qui dit ça? Deserbi. Ok, parce qu'il pense que ça a été un de ses meilleurs joueurs défenseurs. Il y avait Cornelius et Kondogbia.
C'est tous des fous les coachs de l'OM.
Mais c'est ça, de Sampaoli à Deserbi.
Mais attends,
c'est vous qui avez raison.
Heureusement qu'il est meilleur que Cornelius quand même et que Kondogbia.
Après, il y a eu que Cornelius sur les 6 ans comme défenseur central.
Vous n'allez pas me comparer Pavard et Agard avec Balerdi.
Bah on verra cette année s'il joue ou pas. Alors on verra cette année. Tu ne penses pas qu'ils peuvent lui permettre d'être meilleur?
Alors il va perdre le brassard de capitaine. Je ne suis pas enregistré l'émission. Il va perdre le brassard de capitaine et il sera remplaçant en Ligue des Champions.
Ok. Bah on prend les paris alors.
Si tu veux, je te rappelle après.
Par contre, tu rappelleras comme Kevin quand c'est très très bien, ou tu n'appelleras pas et tu feras semblant.
Le problème, c'est que c'est jamais très bien.
C'est jamais très bien. Parce que moi j'ai vu une fin de saison sans Balerdi l'année dernière, après sa blessure à Reims, où ils ont été en grande difficulté.
J'ai vu un match à Auxerre. Mais tu me parles d'un no man's land en défense.
J'ai vu un match à Auxerre sans Balerdi, ils ont été catastrophiques. Je te dis juste que si c'est
le cas. On te dit pas que le seul problème de l'OM, c'est Leonardo Balerdi.
À domicile, il est là, tu prends 3-0, Walid. Qu'est-ce que tu me racontes?
D'accord, c'est vrai que tu joues pas avec Ulysse Garcia à ce moment-là, tu joues pas avec Murillo, tu joues pas avec des mecs qui n'ont rien à.
Au contraire, tu dis que l'année dernière, quand il n'est pas là.
Attends, on ne comprend plus rien. Kevin, et après Kevin au 32-16.
Kevin, Walid vient de nous dire que quand il n'est pas là, la défense, elle est cata. Et tu nous dis que quand il est là, la défense, elle est cata aussi.
C'est pas le problème de l'Olympique de Marseille, qu'il est mal accompagné, qu'il est dans une séquence catastrophique, mais que je n'enterre pas
incapable de vous écouter, c'est fou. Alors je rends la parole à Kevin, au 32-16. Kevin.
Alors moi, je vous dis vraiment une chose. Ce n'est pas un leader de défense. Je me rappelle de l'époque où tu avais un grand défenseur comme Blanc et tu avais Domoro à côté. Domoro était moins bon, mais tu avais un vrai leader en défense. Mais c'est ce mec-là qu'on a besoin. Désolé, il n'est pas assez bon.
Alors, pour Kevin, jouer titulaire à l'Olympique de Marseille.
Oui, dis-moi.
Quelle est ta... Bah là, après, on va attendre de voir les formes des uns des autres, hein, à la fin de ce mercato. Ta défense idéale, là, maintenant que tu as tous les éléments en tête, là.
Ma défense idéale, ça va être peut-être à trois défenseurs qui jouent à trois défenseurs avec Medina à gauche, Pavard à droite et à garde dans l'axe. Et en remplaçant, tu joueras contre Lorient avec Balerdi titulaire si tu veux, mais en Ligue des Champions, tu joueras avec ces trois joueurs et avec Murillo à gauche et à droite. Tu mets qui tu veux, je m'en fous, mais en défense centrale.
Murillo à droite et Emerson à gauche.
Mais en défense centrale, ce n'est pas un leader, c'est un capitaine, il doit rassurer ton équipe. Est-ce que vous le sentez rassurant? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous le sentez rassurant sur un match de foot?
On va voir sans Balerdi ce que ça va donner alors.
Bon, la tienne, c'est quoi ta défense?
Moi, je l'ai dit, moi, ma défense.
Défense à 4 d'abord.
Défense à 4 derrière, Medina, Aguerd, Balerdi, avec Pavard. Une défense à 4.
4 centraux.
À 4 à plat.
Comme Deschamps l'a fait aussi en équipe de France.
Exactement, comme ça se fait dans beaucoup d'équipes en Europe.
Non, moi, je serais plus sur la formule de Kevin. On va rester dans la team Kevin avec un Balerdi qui sera utile à l'OM, hein, pas de problème, mais plus en Ligue 1, en Ligue des Champions. Pour moi, en plus, avec la charge émotionnelle que représente la Ligue des Champions, Vélodrome, etc. Moi, je peux pas lui faire confiance. Mais j'aimerais vraiment poser la question à Mehdi Benatia, qui était quand même un défenseur.
Qu'est-ce qu'il trouve sur WhatsApp, Benatia est un ancien défenseur central, il a la légitimité pour juger le niveau de Balerdi.
Tudor aussi, il devait être attaquant, non, à l'époque. Tudor, non, il était attaquant, non, Tudor, quand il a joué.
J'aimerais bien en parler avec Mehdi Benatia, ou avec Igor Tudor, si tu veux.
Ou avec Sampaoli, avec Marcelino.
Avec Zerbi, enfin, je peux parler avec beaucoup de monde. Les mecs, ils lui font confiance, c'est la réalité.
Il y a personne.
Moi, pour répondre à la question, je pense que avec le matériel que tu as à disposition, il va tourner énormément, il n'y aura pas de défense type. Murillo, par exemple, il démérite pas, je pense qu'il va jouer, ses matchs aussi.
On parle des gros matchs, on parle des classicos, on parle des matchs, sur les
gros matchs de Ligue des Champions. Moi, j'imagine les 4 centraux aussi. Je pense que ponctuellement, Pavard, évidemment, il voudra jouer dans l'axe de temps en temps, mais sur ces gros matchs-là, il acceptera, je pense, de jouer arrière droit, d'avoir.
Medina, joueur que j'adore, Medina, il fait jamais d'erreur, il fait jamais de, et il défend pas en avançant. Il est pas rattrapé par Danso la première année, hein, avec Lens, avec cette défense à 3. Medina, bon, il va arriver à l'Olympique de Marseille, il fera jamais d'erreur.
Bon, Kevin, plus globalement, qu'est-ce que tu penses du mercato marseillais là?
Ben, le mercato marseillais, ce qui me dérange le plus, c'est le recrutement au dernier moment, mais après on fait des bonnes affaires en fin de mercato, donc on perd les trois premières journées, on perd des points bêtement. Moi je trouve ça vraiment dommage, on se tire un peu une balle dans le pied, mais bon, avec l'effectif au complet, et pas que ça, Aubameyang et Greenwood, mais Greenwood, j'aimerais bien que vous, le jour où vous faites une émission sur lui, j'aimerais vraiment passer, parce que c'est vraiment un point très négatif. C'était ma plus grosse déception depuis le début de saison. Autant Balerdi, j'ai l'habitude, mais Greenwood, qui marchait sur tout le monde dans les matchs amicaux, je le trouve très en dessous de son niveau. Et ça me fait très peur pour la suite de la saison, parce que la saison, elle dépend beaucoup de lui aussi.
Mais tu sais,
met Balerdi et Greenwood sur le banc, quoi. Non, alors
Kevin, tu sais, moi Kevin, je me pose souvent la question de savoir que doivent faire les clubs comme l'OM, par exemple, quand ils ont un mec qui performe ou qui surperforme, en l'occurrence pour Balerdi, peut-être même pour Greenwood, comme la saison dernière. Bien sûr que dans l'absolu, tu te dis, allez, on les garde, on va construire là-dessus, on va essayer de capitaliser avec un recrutement intelligent. Mais combien de fois on voit un joueur comme Greenwood l'année dernière, qui a été excellent, même jusqu'à la préparation, qui a peut-être eu des offres cet été, ou comme Balerdi, qui a été correct selon Walid depuis un an et demi.
Et selon toi?
Et qui a été pas plus que correct. Toi, tu trouves qu'il a été très bon. moi, je pense qu'au final, on ne peut plus reprocher au club de vendre leurs meilleurs joueurs quand ils ont une grosse offre qui arrive. Parce qu'en fait, les mecs, regarde, même Greenwood qu'on adore, en soi, footballistiquement, mais il est j'ai même pas le mot, j'allais dire tête à claque, mais il est insupportable depuis le début de saison.
Sa première mi-temps, il est catastrophique.
Il est insupportable à marcher, à pas comprendre que là, ton club, il est dans l'urgence. T'es à Lyon, t'es à moins un, faut que tu fasses des efforts, faut que tu fasses plus.
Mais donc, tu fais quoi, Kevin? Parce qu'on dit qu'il y a trop de mouvements à l'Olympique de Marseille. J'entends. Même Greenwood et Balerdi, donc fallait les sortir.
J'ai pas dit que humblement, c'est pas facile. Parce que moi, je pense que Balerdi fallait le sortir. Mais ça, c'est une autorité publique, je pense. Fallait le sortir, il fallait prendre surtout un gros chèque. Greenwood, difficile de le sortir. Mais s'il y avait vraiment 70 patates, quand tu sais l'instabilité du gars.
Moi, je pense qu'il n'y avait pas 70 patates.
Il n'y avait pas ça.
Même s'il y avait 45, c'est que d'autre part, quand un joueur comme Greenwood, tu l'acceptes avec ses qualités et ses défauts. Et évidemment que Desherby doit se taper la tête contre les murs, je suis d'accord avec toi. Première mi-temps, il rend fou à Lyon. Quand tu vois qu'à chaque fois, ils l'ont ciblé carrément, et d'ailleurs, Maciel te le dit à la fin du match, on sait que Greenwood, enfin, c'est connu des adversaires, on sait que Greenwood ne fait pas trop d'efforts, donc on a dit à Abner, vas-y, fonce de ce côté-là, à chaque fois, il joue les deux contre un, etc. Oui, il ne fait pas d'efforts, mais en même temps, Greenwood, c'est un mec qui t'assure 20 buts par saison, et aujourd'hui, en Ligue 1, c'est difficile de trouver.
22 buts,
on verra le bilan à la fin de la saison. Voilà. United on verra à la fin, moi je te signe, il les mettra.
Et puis United à 50% à la revente.
En plus.
Il y a des très grandes chances que Greenwood reste à l'Olympique de Marseille quand même.
Voilà. Je n'ai pas dit que c'était facile.
Sur le manque de stabilité, pardon, de l'Olympique de Marseille, on dit qu'il y a beaucoup trop de mouvements et qu'on n'arrive pas soit à s'attacher ou à avoir un semblant de certitude.
Ça, c'est vrai, ça.
Non, si en plus de ça, tu dois sortir ton capitaine Balerdi et ton meilleur buteur l'an dernier comme Greenwood, je ne sais pas ce qu'on dirait sur l'Olympique de Marseille aujourd'hui.
Mais Walid, on ne te dit pas de sortir Greenwood, je te dis juste que c'est une déception depuis le début de saison et toi-même, tu le reconnais, on ne te demande pas de le sortir.
Il y a trois journées, les gars.
Mais il y a trois journées, je suis d'accord, mais il arrive Madrid dans 15 jours.
Ok, mais Madrid, tu vas le perdre le match, c'est pas très grave. Tu vas bien dormir la nuit contre Madrid. C'est pas là où tu vas gagner ton ticket pour les 24 en Ligue des Champions. La réalité, c'est que
Lille, l'année dernière, ils ont battu Madrid.
Oui, d'accord, mais enfin,
ce que je veux dire,
c'est un match bonus au Bernabéu. Enfin, il faudra y aller avec de l'ambition. Mais quand on me dit, est-ce que tu dois être prêt pour Madrid? Moi, ton début de saison, tu l'as sabordé. Ça a été catastrophique. On en a parlé en long et en large dans cette émission. Maintenant, ça reste que trois journées. L'Olympique de Marseille va retrouver son effectif au complet. Pachao, Medina, ils vont tous se remettre à l'endroit. Ils vont recevoir Lorient. Ils vont lancer leur saison. Ils auront 6 points en 4 matchs. Ce sera un total qui est bien évidemment insuffisant, mais il ne faudra pas non plus tout remettre en question sur Balerdi, sur Greenwood, sur tous les joueurs. Laissons-les bosser et puis on fera un point à la J10. Hein.
Voilà. Kevin, merci d'être venu au 32-16.
Bon, c'était un plaisir, merci
Kevin.
Beaucoup.
Ciao,
merci
Kevin.
Tu reviens quand tu veux.
Je vous rappelle pour Balerdi quand il sera remplaçant.
N'hésite pas.
Au titulaire également.
Ils sont pareils, ils ont des certitudes. Tous les Kevin, ils ont des certitudes. Hein,
c'est Kevin, le prénom qui dit ça.
Bravo.
On a bien compris, quand il est monstrueux, il est correct. Quand il est il est catastrophique.
Walid, tu sais quoi, vraiment, je souhaite avoir tort, mais à 10 000%.
Mais non, mais vous êtes du bon côté de toute façon.
On est quand même souvent du bon côté.
Vous êtes du bon côté de toute façon, Kevin. Il n'y a pas de souci, vous êtes du bon côté. Non, mais si.
Il y a une opinion sur un joueur et point. Voilà.
C'est tout le monde désingue Balerdi, t'es du bon côté aujourd'hui.
Non, mais tu désingues pas.
Stop. On a fait le débat, on ne va pas refaire. Kevin, merci d'être venu. À très vite sur RMC. N'hésite pas à refaire le 32-16 plus tard. Vous nous appelez également dans un instant. On parlera du LOSC, bien sûr. D'abord les directs. C'est un match important pour l'équipe de France de basket à l'Euro face à la Pologne. Bonsoir Clément Brossard.
Salut Nico, salut tout le monde. La Spodek Arena et ses 9000 personnes. Une évidemment enceinte chauffée à blanc sous le regard de Robert Lewandowski pour suivre les Polonais. Ça se passe plutôt pas mal dans ce début de match pour l'équipe de France après 3 minutes. On mène 9-5. Il va falloir retrouver la voie du succès évidemment après la désillusion de dimanche et la défaite face à Israël, 82-69 face à des Polonais qui ont remporté leurs 3 premiers matchs. C'est le match important à remporter dans cette phase de poule pour s'éviter et bien de finir 3e ou 4e. On est déjà qualifié après le résultat cet après-midi, la victoire de la Slovénie face à l'Islande en 8e de finale, mais il faut éviter d'être 3e ou 4e parce que derrière ça peut se compliquer puisqu'il y aura de gros adversaires potentiels, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Pour éviter tout ça, il faut s'imposer face aux Polonais et puis il y aura un dernier match derrière à remporter face à l'Islande. 9-5 pour l'équipe de France après 3 minutes de jeu.
Okay. C'est parti également, quart de finale à l'US Open entre les Tcha et Alcaraz, 6-4-3-1 pour l'Espagnol. Il y aura également Taylor Fritz face à Jannik Sinner.
Djoko.
N'importe quoi, Novak Djokovic. Ce soir, ce qu'on n'a pas dit également, c'est que au moins, il sait Balerdi qu'Agerd va aller jouer la canne. si ça sourit pour le Maroc, ça peut durer un mois. Que Medina aussi prend souvent des cartons jaunes et que il aura du temps peut-être dans la rotation si on part du principe qu'il sera remplaçant cette saison. Voilà. Bref, voilà pour Balerdi.
Et puis c'est une très bonne chose pour l'Olympique de Marseille d'avoir des solutions.
Exactement. Dans un instant, le LOSC est-il le grand gagnant du mercato ? On va égrener les noms, les arrivées, les départs, la balance également avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz, Wade Cherchou. Restez avec nous sur RMC. 20h38, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Wade Cherchou. Alors, précision, on est désolé, problème technique hein, sur la chaîne After Foot TV et sur YouTube. On essaie vraiment de régler ce problème. On est confus. Hein. Vous êtes très nombreux à nous écrire. Vous qui regardez l'After à la télé ou sur le net, bon, sachez qu'il y a forcément l'appli RMC également pour écouter l'émission en direct.
Il y a de quoi être frustré parce que moi, quand je rentre à la maison.
Mais oui.
Là, moi aussi.
Je me branche en direct. Hein, et j'aime bien voir les images.
Hein. YouTube ou After Foot TV.
On est un peu dégoûté pour les 278 000 abonnés de la chaîne. Là, vous n'êtes pas autant hein, ce soir, bien sûr, mais presque.
À 1000 près.
Alors, on a fait long sur Balerdi parce qu'il y avait des appels au 32-16. Je voudrais qu'on parle de Lille ce soir également. On fait une émission un peu mercato, forcément. On a pas eu le temps d'en parler hier soir dans Génération After. On l'a fait avec les drôles dames pour leurs 4 championnats étrangers. Je voudrais qu'on parle de Lille ce soir. Le LOSC est-il le grand gagnant du mercato ? Une trentaine de mouvements cet été, parce que c'est vrai qu'on stigmatise l'instabilité à Marseille. Elle est valable dans beaucoup de clubs de Ligue 1 à cause de la situation financière des clubs de notre championnat. Trentaine de mouvements à Lille. Parmi les départs principaux, je les rappelle, Jonathan David, Angel Gomez, Bafodé Diakité, Johnson Zegrova, Lucas Chevalier, Rémi Cabella. Lille qui a très bien vendu, 133 millions d'euros bonus compris, total des ventes. Côté arrivé, bon, je le fais rapidement, Giroud, Higaman, Perrault, Verdronk de Nimeg, le gardien Berkay Hauser, Félix Correa, Nathan Goy également, et Arnaud Bodard et Chancel Bemba, arrivé libre. Bemba. D'ailleurs, un mot sur Bemba, les gars, qui n'a pas joué depuis une saison. C'est un coup que tente l'étang.
Il a joué en sélection quand même.
Il a joué en sélection, mais c'est pas grand-chose, Jimmy, quand même, sur 10 mois de compétition. C'est une bonne idée, une idée pertinente ou pas, selon vous?
C'est toute la bonne idée. Après, il va falloir voir, bien évidemment.
Il arrive libre, évidemment.
Ouais. C'est un coup à tenter, moi, je pense.
Comment, voilà, comment
il va se remettre?
C'est un contrat très court, ouais.
Ouais. La dernière fois qu'ils ont tenté un coup comme ça, ça s'était pas très bien passé. C'était Oudjiti, le pauvre. Mais
Oudjiti, je crois qu'il
y a un peu plus de certitude quand même.
Il sortait d'une grosse saison à Lecce.
C'est quand même toujours très très compliqué de prendre un joueur qui n'a pas joué pendant aussi longtemps, même s'il a joué avec sa sélection. L'enchaînement des matchs, la répétition des matchs en Ligue 1, c'est quand même une intensité qui est autre que les entraînements où je sais pas exactement avec qui il s'entraînait.
Il s'entraînait avec la réserve. Il y avait Jean-Pierre Tavard qui en parlait aujourd'hui, qui disait il a été super pro avec les jeunes, etc.
Les entraînements, c'est un bon pro. Ça remplace pas la compétition, bien sûr, tout le monde le sait maintenant. Pourquoi pas, mais moi, je voudrais saluer une nouvelle fois le travail de l'équipe dirigeante du LOSC avec Olivier Létang, son recruteur Colson ou tous ceux qui travaillent dans ce club. Parce que
j'ai l'impression que tout ce que fait Létang, c'est juste en fait.
Non, mais moi, ce qui m'impressionne,
c'est juste. Il y a du caractère, des fois.
Un peu trop parfois, je pense.
Ouais, mais des fois, il tape un peu du poing sur la table, mais il y a un moment. Tu sais, dans le foot, voilà, c'est ce qu'on dit avec Lucien Riquet ou avec Campos ou Paris Saint-Germain. Il y a un moment, il faut quand même de la personnalité.
Oui,
il
faut mettre aussi un peu d'huile parfois.
Ouais, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un capitaine dans le navire, et c'est le cas à Lille. Et franchement, encore une fois, il va chercher des mecs en Eredivisie, il va chercher des mecs, que ce soit
en Turquie, en
Jupiler League,
en Belgique, au Glasgow Rangers en Écosse. Non, mais franchement, c'est très très fort.
Moi, ce qui m'impressionne encore plus que les achats, c'est des ventes. Je te dis franchement, je trouve qu'ils sont excellents vendeurs.
Extraordinaire.
Ouais, mais au-delà de Diakité, moi, on prend des plus petits profils.
Quasiment 90 millions d'euros de balance. Hein.
J'ai regardé Gudmundsson.
Gudmundsson,
il vient pour 6 millions en 2021, il arrive à le vendre 11 millions et demi alors qu'il n'a jamais été indiscutable à Lille. Il y en a un autre qui est plus marquant, je pense que vous ne connaissez même pas le joueur, vous en souvenez même pas, André Ilitch.
Ouais.
André Ilitch, tu vois qui c'est ou pas? André Ilitch, il a joué 16 minutes. Il arrive en février 2024, il joue 16 minutes. Il arrive à le prêter, il avait payé 4,7 millions. Et il fait quand même une plus-value sur lui, il le revend à Union Berlin 5 millions. C'est-à-dire qu'il retombe toujours sur ses pattes, j'ai l'impression, sur tous les joueurs. Zegrova, il n'a pas lâché jusqu'au bout. Dernière année de contrat, il était au placard en décembre, il n'a pas joué, machin. Il arrive à le sortir avec les bonus, je crois que c'est 20 millions pour la Juve. Et en plus, il n'a pas lâché sur l'OM. En plus, le petit pied de nez à l'OM d'aller récupérer Mbemba derrière, en plus, en fin de mercato.
Je sais pas si un pied de nez. Alors, c'est nous qui disons ça.
Il y avait quand même une petite histoire d'amour entre l'OM et le LOSC.
Il y a un petit truc qui se passe entre l'OM et l'OL, même chez les supporters, je trouve.
Entre l'OM et Lille, tu veux dire
entre l'OM et Lille,
rivalité qui se crée en ce moment.
C'est depuis Thauvin aussi.
Il y a eu Thauvin et surtout il y a eu l'accrochage avec la suspension de Mehdi Benassia.
Oui, mais même Angel Gomez qui va à l'OM.
Exactement.
Les
supporters l'ont mal pris. Le fait que ce qui se passe avec les temps, avec les dirigeants, la chancelle Mbemba, je trouve qu'il y a un petit truc qui se crée. Là, c'est récent, c'est neuf.
Et puis il y a un côté aussi nerf d'acier chez les temps parce que Igaman, ça fait depuis le mois de juillet qu'on savait que Lille le voulait, il a pas lâché jusqu'au bout, il a pas voulu surpayer. Et il arrive fin août, alors il te prend 10 millions d'euros, il rentre, il te fait un match exceptionnel.
Le global là-dessus, justement.
Ah non, mais moi pour moi c'est une masterclass. On aime ou on n'aime pas Olivier Létang. Il y en a qui disent que c'est du sous Jean-Michel Aulas parfois dans la communication, mais son travail il est formidable. Moi ce qu'il fait là sur cet été, on l'attendait au tournant. Moi je l'attendais au tournant parce que je crois que c'est Genesio qui en avait parlé.
Dans la salle d'attente pour
Olivier. Ouais, j'avais mon téléphone, il n'y avait plus de batterie. J'étais sur toutes les applications et j'attendais. Le travail d'Olivier Létang, même si je lui faisais confiance et je disais que j'imaginais pas une équipe lilloise pas compétitive au 1er septembre. Genesio avait mis un petit coup aussi un petit coup de gueule pendant la prépa où il expliquait que les recrues étaient peut-être un peu tardives, mais je suis d'accord avec les gars, hein, je suis sur la même ligne. Quand on voit les départs, les arrivées, les idées, tu sors 40 millions d'acquitté à Bournemouth où c'est très bien géré encore une fois parce que au début ça a un petit peu tardé, mais à raison pour Lille, il fait le mec du Standard de Liège, Ngoy, qui fait des débuts fracassants, il fait quand même Giroud libre, on se pose la question, est-ce que Giroud il peut faire toute la saison? Non, il ramène Igaman qui était un dossier prioritaire depuis le début du mercato et on voit qu'en une mi-temps il a montré tout l'étendue de son talent. Il y a aussi un dossier dont on n'a pas parlé, Nico, c'est André.
Il est resté solide, il a revalorisé
là-dessus pendant que 3 jours on se disait que Benjamin André
Walid l'avait déjà envoyé au Paris FC.
Non, mais Benjamin André était au PFC.
Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était au PFC.
Tout le monde disait que il voulait aller au Paris FC, le mec il l'a convoqué dans son bureau, il a été convaincu pour qu'il continue à Lille.
Il prend pas la patte sur le début de saison, hein, Benjamin André.
Même
saison
contre Brest, ça avait été compliqué, mais depuis il est revenu à un très bon niveau. Donc voilà,
c'est Haraldsson qui est là qui va faire une grande saison, je suis convaincu.
Parce que attention, au début du Cato, tu laisses partir libre Jonathan David, donc c'est pas une bonne gestion pour un dirigeant. Angel Gomez, la même chose. Zegrova, on se disait sur les 7 derniers mois, comment ça va se passer, même dans la communication. Zegrova, bon, finalement il va jouer, il va pas jouer.
Et puis il sort
à 20 millions à la Juventus à un an de la fin de son contrat.
J'ai une petite réserve sur le mercato, c'est la gestion du dossier des gardiens. Je trouve que ça allait assez vite quand même pour Chevalier au PSG. Je pense qu'il aurait peut-être pu en tirer
Après attention, c'est
l'éclaircie. Et Berthier-Auzer, j'ai des interrogations sur le gardien.
Voilà. Après c'est l'éclaircie.
Il y a quand même Arnaud Baudard derrière qui est quand même un bon gardien aussi. Non. Franchement sur le management. Après moi j'aime bien quand on dit ah ouais mais Olivier Létang il a du caractère. Il a du des fois c'est un peu autoritaire. Mais vous croyez que tu gères un club de Ligue 1 si t'es pas autoritaire? Mais non, mais il y a un moment, il faut
même
bien
un club de N2, il sème la terreur. Alors tu t'imagines dans les gars, il mettrait les têtes à tout le monde.
C'est pas vrai. Mais il y a un moment pour avoir déjà échangé avec Olivier Létang. Bien sûr que c'est un gars de caractère. Bien sûr que le gars, il sait ce qu'il vaut, il sait où il veut
Olivier
aller. Mais sinon, tu ne peux pas diriger un club comme ça.
Mais surtout dans une ère,
faut pas s'oublier. D'où il vient avec Lille.
Et c'est ça.
Lille,
dans une ère, on a vu qu'il y a un moyen, il y a plus d'argent.
Exsangue à cause de Gérard Lopez. Aujourd'hui, le club est stable financièrement. Le club est encore en Coupe d'Europe.
Il a bien bossé sans grand moyen, c'est ça qui est fort.
C'est un club, une entreprise bien tenue. Philippe est avec nous, 32-16. Salut Philippe.
Et salut à tous, merci de m'accueillir parmi vous. Donc, je voulais juste m'adresser à Walid parce que je me souviens de ses propos la veille de notre déplacement à Brest où il misait pas grand chose sur le LOSC en disant qu'on avait 4 déplacements un peu difficiles, qu'on savait pas où on allait. Qu'il y avait une mini-crise avec Genesio qui avait fait une petite sortie médiatique. Bon, j'espère qu'il est rassuré sur notre début de saison.
Ouais, très rassuré, j'en ai parlé. T'écoutes les émissions en ce moment?
Oui, je t'écoute, mais si tu veux, j'interviens très rarement. Moi, j'écoute beaucoup tes analyses. Des fois, elles sont pertinentes, mais je trouve que t'as été dur un peu avec nous.
Peut-être.
Quand on part avec des gamins à Brest, tu te souviens de la physionomie un petit peu du match. On a un gamin qui se claque derrière,
ouais,
il y en a un qui se fait les croisés. On a un Norvégien qui me fait penser à Gignac quand il arrivait à Toulouse un peu avec la charrette, tu vois. Donc c'est pas terrible, il y a des ajustements à faire. Pardo est un excellent joueur. Je pense que tu l'avais même signalé dans ton analyse. Tu disais Pardo, pourquoi pas le faire jouer en 9,5. Et là, on va chercher un mec au Glasgow qui vient, un jeune Marocain. Mais je voudrais juste, parler de Bouadi et Zahraoui. C'est-à-dire que c'est bien de parler d'Aralson, de Giroud. Le club a fait un gros effort de garder aussi Benjamin André. Mais par contre, moi, je veux mettre en avant l'institution qui se maintient quand même avec des jeunes qui progressent au niveau du club. On a un budget de 115 millions cette année. On a réussi pour vendre pour 130. Zegrova est parti, c'est très bien. Moi, je pense qu'on sera sur le podium cette année. Moi, j'en suis convaincu. Dans ce championnat qui est un championnat low cost, on va être clair, Paris sera au-dessus. On n'est pas dans le même championnat. Mais je pense que si nous, on se base sur des clubs comme Monaco, comme Lyon, on n'a pas à rougir. Et je pense qu'on finira pas, comme tu l'avais initialement prévu, aux alentours de la 8e, 5e place. Je pense que nous, on sera dans le top 5.
Non, moi, j'avais dit 4-5, moi. On parlait notamment de la concurrence avec Strasbourg, qui était le favori. La question, c'est à la 4e
place. Est-ce que tu peux, comme Philippe le dit, imaginer Lille plus haut qu'une 5e place?
Oui, c'est une possibilité avec la cohérence qu'il y a depuis cette fin de mercato. Il va falloir voir aussi. Attention, le duo Genesio l'étant, parfois c'est un peu compliqué, ça peut couiner en termes de communication.
Walid, t'as pas de strat, si tu veux, intermédiaire entre l'étang et Genesio. Tu vois, à Marseille, t'as Benassia, t'as Longoria, t'as De Zerbi, t'as une tête de trop pour moi. Chez nous, on a toujours fonctionné avec des binômes très costauds.
C'est vrai, c'est vrai.
Tu prends Puel avec Sédou ou Graille avec Vaïd. Nous, on a toujours eu ce mode de fonctionnement à Lille qui a toujours fonctionné, même avec Garcia à l'époque. Bon, c'est sûr qu'on avait des générations. Ouais,
mais après, c'est pas forcément les mêmes personnalités. Francis Graille, dont tu parlais, Michel Sédou et Olivier Létang, ils prennent peut-être pas la même place aussi, tu vois.
Ouais, mais si tu veux, dans la philosophie, dans la gestion, c'est des gens qui sont très terrain. Et je pense que la force de Létang, c'est un peu la métaphore du sous-marin. C'est-à-dire que le mec, quand il monte à la surface, il est précis, il est ordonné et il fait des choses cohérentes pour le club. Parce qu'aujourd'hui, on revient de loin quand même, hein, avec Lopez, avec Renard, avec Antonetti. Là aujourd'hui, on est sur un projet qui donne envie, qui a de la couleur.
Non, mais le projet, il est très très cohérent.
Après, on verra. Il y a une limite. Attends, juste Philippe, il parlait de Sarraoui, il parlait de Bouadi également. Il y a Igaman. Ce trio-là, il est pas impossible qu'il soit à la CAN et avec l'équipe du Maroc. Et pour ce que représente déjà une CAN, au-delà du fait que effectivement tu vas être absent un petit moment, et c'est pas dramatique parce que je crois qu'il y a qu'une ou deux journées de championnat et un tour de Coupe de France pendant la CAN.
21 décembre, mais 17 janvier.
Pour l'importance que va avoir cette Coupe d'Afrique au Maroc pour la sélection marocaine, je pense que que tu réussisses la CAN, que tu ailles au bout ou à contrario que tu sois éliminé de façon précoce, ça peut peser beaucoup sur les joueurs qui seront. Je pense que émotionnellement parlant, la charge émotionnelle que va avoir cette CAN pour la sélection marocaine et pour tous ces joueurs, je pense que ça va être un élément important.
Igaman,
si
Nisra,
on n'est pas encore.
Igaman Nisra, Bouadi, il va falloir qu'il
et Sarraoui, il n'est pas impossible qu'il soit aussi.
Oui, mais Sarraoui, il n'est pas, sûr d'y être, il n'est pas dans les plans.
Il n'est pas dans le 11, mais il sera indiscutable
aujourd'hui.
Mbemba va jouer aussi la CAN.
Ouais. Exactement.
Après le seul bémol où là je suis d'accord avec Walid. Bon, on a un gardien turc effectivement. Bon, il est ce qu'il est. Je pense que au niveau des sorties, c'est très hasardeux. Moi, je le trouve très très moyen sur les sorties. Je pense qu'il nous fera quelques bourdes cette année, il nous sortira des gants en peau de pêche, on va y avoir droit, je le sais. Mais globalement, je pense que l'assise, le projet, la structure, le fait qu'on a aussi Giroud parce que je pense que si Giroud joue à Lorient, c'est 3 matchs, 3 buts, voire peut-être, il peut mettre peut-être même un doublé, je pense, à Lorient. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, 3 journées,
Il y a un mélange d'expérience.
Je ne voyais pas là.
Voilà. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse qui est très intéressant. Maintenant, il va falloir voir l'arrivée de l'Europa League
et la gestion
des enchaînements.
Mois de septembre, Lille-Toulouse, Lens-Lille, Lille-Brandbergen, Lille-Lyon et Roma-Lille. Lille-PSG début octobre.
Donc il va falloir voir cet enchaînement-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que du côté de Lille, il y a des joueurs frissons, il y a des joueurs qui m'intéressent. Moi, footballistiquement, ce qu'ils ont déployé, notamment sur la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps contre Lorient, tu prends Igaman. Fernandez Pardo.
D'autres pensaient qu'il allait partir, Fernandez Pardo.
Un Bouadi, un Correa qui a trois passes D depuis le début de la
saison. Il y a Thiago Santos qui va pas tarder à revenir aussi.
En plus.
Ouais, tu vois, Correa, c'est Félix Correa, c'est vraiment le type de joueur. On va le chercher à Gil Vicente, on va le chercher au Portugal. C'est-à-dire que la cellule de recrutement aussi travaille d'une façon très pertinente. Tu vois, il y a vraiment des choix quand je te dis qu'ils sont très très précis. C'est un joueur qui arrive, qui a pas percé à la Juve, il était chez les jeunes, il est formé au Sporting. Il arrive à Lille, bah ça se trouve pour nous c'est banco, tu vois, ça se trouve le mec dans deux ans on peut le revendre peut-être 20, 25, 30, tu vois. Nous on vit de ça aussi, tu vois. C'est un peu la.
Et puis le retour de Thiago Santos aussi, je l'attends.
Ça a été dit, je crois, juste à l'instant par Kevin. Ouais.
Bon voilà Walid, hein, c'est désolé, hein, mais je voulais juste te rappeler ça, voilà.
Mais pas du tout, quand
c'est comme ça, Walid, c'est comme les politiques. On te rappelle tes coachs, tes déclats il y a 6 mois.
Quand Walid est dans la salle d'attente, il est en général très 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 véhément.
Non, pas du tout. Je donne juste un peu d'exigence et un peu de respect à tous les clubs de Ligue 1.
Ouais, non, mais moi j'avais apprécié ton analyse, mais tu sais, moi je trouve que le temps est un excellent maître, il règle bien des choses.
Et t'as
je
bien
me
raison.
Suis dit, putain, il nous taille quand même avant d'aller à Brest, et je me suis dit quand même,
on vous taille pas,
avec un poids, c'était pas mal, quoi.
Vous taillez pas.
Si on gagne les deux d'après, je vais l'appeler, je vais l'attraper.
Tu vois, et t'appelles derrière, et puis ça fait un bon débat.
Tout à fait. Merci, exactement. Philippe.
Merci à tous, bonne soirée.
Allez, à très vite sur RMC. Avant de faire la pause de basket, fin du premier carton, début du deuxième, Clément Brossard, l'Euro France-Pologne.
Exactement, on vient de commencer le second carton, 27 à 24 pour l'équipe de France, et il y a un motif de satisfaction, c'est qu'on a retrouvé le capitaine Gershon Yabusele, auteur de 12 points dans le premier carton, 44% des points français, lui qui était en difficulté avec 8 points de moyenne. Et pourtant la Pologne avait très bien entamé le match en allumant la mèche, notamment par le monégasque Jordan Lloyd à 3 points. Ils sont à 4 sur 5 à 3 points les Polonais, mais on résiste et surtout on fait du gros boulot à l'intérieur. 27 à 24 pour les Français, début de second carton à l'instant.
La deuxième heure de Génération After à venir au programme, le miracle lyonnais peut-il tenir? On écoutera Jimmy aussi qui s'interroge sur l'expertise de Red Bull qu'il ne voit pas sur le mercato du Paris FC. Et puis si on a le temps, on le fera demain autrement, Rennes peut-il redevenir un candidat en Europe? Reste avec nous Kevin, Walid, Jimmy, Génération After RMC, matin 59.
RMC.
Moi je suis un faux gros, je suis un ancien maigre. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est la réalité.
J'ai appelé le standard et à l'époque Max c'était un peu comme une séance de psy, tu vois, j'ai appelé le 32C, ça coûtait moins cher que d'aller chez le psy.
C'est qu'en fait c'est la machine à laver, le seul mec qui déteint sur tous les autres, le seul t-shirt rouge dans le blanc, le mec qui te le laisse dans le club, non, ça fait 5 ans.
Tu dis
j'ai
ça.
Dit qu'il y a quelques machines qui l'a fait mettre en rose.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Je l'ai senti venir ce nouveau jingle, Kevin Diaz. Tu peux nous remercier, on l'a senti venir aussi, on l'a sorti
bravo,
très vite.
Bravo,
merci
Nico.
À Polo.
Bravo Polo.
Paul Vexio en régie. Et Najib Boulaouine également. Jimmy est là. Jimmy Moran, bien sûr. Olida Cherchou. Rapide point sur le basket. France-Pologne, Eurobasket. Clément Brossard.
On joue depuis 3 minutes en second carton et ça fait 32 à 24 désormais pour l'équipe de France avec un Francisco toujours en difficulté. Mais vraiment dans le domaine intérieur, on règne et tant mieux parce qu'on souligne quand même l'absence d'Alexandre Sarr. Hein. On l'a appris cet après-midi. Il est blessé au mollet. Il quitte la compétition. L'équipe de France qui ne va pas le remplacer. Donc on jouera cet Euro à 11 jusqu'au bout. Et si ça se passe comme ça, eh bien ça se passe bien. 32 à 24 pour les Bleus.
Merci Clément, à tout à l'heure. Bon, tiens, je l'ai pas dit également, et bravo à nos présidents de Ligue 1 qui pour une fois ont bien bossé cet été, contraints bien sûr par des limites financières. Article RMC Sport hein, que je vous conseille de lire notamment sur le site. 342 millions de bénéfices pour les clubs français. Alors, on a parlé de Lille, hein, il y en a 90 pour Lille quand même. Pourquoi tu rigoles?
Non, mais c'est des bénéfices dans la balance des transferts.
Ouais.
Mais c'est pas des
c'est la balance des transferts.
C'est pas des bénéfices.
C'est pas des bénéfices structurels sur.
Oui, mais quand même. Bah non, c'est bien qu'on a été raisonnable. On a bien bossé. Très peu de transferts au-dessus de 10 millions d'euros, bien sûr.
Je veux vraiment féliciter les présidents pour ça.
Écoute, ils ont été rigoureux pour une fois.
Ils n'ont pas été rigoureux.
Ils ont pas choix, ils ont plus de droit télé.
Ils ont été réalistes. C'est la vie ou la mort, là.
C'est ça. Si tu faisais pas ça, t'étais mort. Ils ont rendu pour survivre, les clubs.
Il y a d'autres qui font des emprunts.
Avant, tu pouvais compter justement tes droits télé pour obtenir des crédits. Mais non, c'est terminé.
Il y a un moment, t'as un club français, tu vas avoir une banque, ils vont te dire, mais monsieur, c'est quoi vos revenus futurs?
Attends, t'as pas attendu que d'avoir l'assurance de revenus futurs pour emprunter dans le football?
Ah bah non, mais t'avais beaucoup les droits télé qui te permettaient d'en
prendre. Bien sûr.
C'est ça le truc.
Là aujourd'hui, il y a aucun droit télé. Et en plus, il y a CVC qui a un pourcentage de rien pour l'instant. Donc forcément, c'est difficile d'en prendre.
Puisqu'on parle de ça, Lyon justement, qui n'a pas eu le choix pour le coup sur ce mercato. Lyon qui est en Ligue 2 il y a 3 mois, qui est co-leader de Ligue 1 avec le PSG après 3 journées, certes seulement. Le miracle lyonnais peut-il tenir? Venez en débattre avec nous, 32-16 supporters de l'OL. Alors quand je dis miracle, je dis éventuellement top 4, voire podium Ligue 1. Est-ce que c'est possible? Si Jimmy Rex aussi, parce qu'il a fallu composer avec des moyens très limités. Illustration, on en a parlé hier soir dans l'after. T'y était Walid, le recrutement du seul Satriano en neuf, avec un effectif peu profond. On va en parler, le détailler également. Est-ce que ça peut tenir? Qu'est-ce que Lyon peut ambitionner cette saison?
J'ai quand même une question avant de débuter ce débat.
Vas-y.
j'ai entendu un peu tout et son contraire. Est-ce que Lyon devait vraiment vendre Mikotadze ou est-ce qu'ils auraient pu attendre?
Non, ils devaient vendre.
Ils n'avaient pas le choix.
On parlait d'une somme de 40 millions d'euros à entrer avant la fin du mercato.
Non,
il fallait la rentrer avant la fin du mercato.
Okay. C'était pas, j'avais entendu aussi peut-être, c'était avant la fin de saison.
Non, ils n'avaient pas le choix. C'est pour ça qu'ils auraient pu, Walid l'évoquer hier soir dans l'after, ils auraient pu mieux anticiper son départ.
Bon, après, Satriano, pour le coup, c'est une bonne idée. Si t'as pas d'argent, c'est un gars qui avait été quand même très performant.
Sort des croisés, hein.
Il a pas joué de la saison.
Un an au placard.
J'ai dit, c'est une idée.
Non, mais cette canon, en plus, il était prévu pour être doublure de Mikotadze.
Bien sûr.
C'est ça. C'est que maintenant, t'as cette canon qui est propulsé numéro 1 et derrière.
Non, mais voilà, je trouve que c'est une idée.
T'as le jeune Molébé, qui effectivement, Walid t'en parlait hier, qu'ils ont finalement tenu à conserver cette
saison. Il devait aller à Séville, qui était pas dans les plans de Fonseca.
Oui, bon, ça, après, ça peut arriver, mais disons.
Pas une minute sur les trois matchs, je crois.
Ils ont joué sans avant-centre contre l'OM, mais ils s'en sont pas si mal sortis.
Donc, c'est un autre sujet, justement, ça.
Non, mais, c'est pas le
comment compenser sujet. L'absence de profondeur devant, en tout cas?
Non, mais aujourd'hui, de toute façon, je le dis, je le répète, moi, j'ai cette formule qui dit que l'OL, c'est un peu le gars qui est passé à côté de la mort. Voilà. Il se réveille. Et pour l'instant, il va voir tout en rose parce que il sait ce qu'il a failli perdre.
Mais est-ce qu'il va le payer à terme?
C'est-à-dire tout. Ils ont failli tout perdre. Et donc, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, la saison, elle est déjà bénéfique pour l'Olympique Lyonnais. Dans le sens où, certes, ils ont perdu Mikotadze et ça, c'est bien sûr très triste. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais aujourd'hui, leur début de saison, il est tout simplement historique. Puisque ça fait 30 ans qu'il n'avait pas début un.
Que ça.
Ça fait plus de 30 ans qu'il n'avait pas connu un tel début de saison avec 3 victoires consécutives. Le record est à 4 et il pourrait l'atteindre dès la prochaine journée. Donc ça, déjà, c'est exceptionnel. Ensuite, t'as un entraîneur, et ça, Walid l'a dit, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que on a un entraîneur qui, on a l'impression, est plutôt à l'aise dans ce genre de contexte avec moins de pression où c'est un peu l'underdog, l'outsider qui n'a pas grand chose à perdre et qui peut, être la belle surprise. Et par contre, aujourd'hui, quand tu vois les jeunes encore qui sortent, un gars comme Khalis Mera, qu'on n'aurait peut-être pas vu s'il y avait l'armada lyonnaise encore, ou l'armada lyonnaise, ou en tout cas les recrues lyonnaises comme sous l'ère Textor, il y a 2-3 jeunes qui arrivent, et puis après, t'as des joueurs qui ont été recrutés avec beaucoup d'intelligence. On parle de Lille, mais Lyon a fait un peu le même type de recrutement, soit dans des championnats un peu moins connus, soit des seconds ou troisièmes couteaux dans des grands clubs, comme Morton, qui s'avère, en tout cas sur ce début de saison, être un choix très pertinent ou en tout cas très encourageant. Donc oui, moi je trouve que l'Olympique Lyonnais est à la bonne place, et je voudrais quand même féliciter, parce que ça n'a pas toujours été le cas, féliciter les supporters lyonnais, parce qu'ils sont derrière leur club, parce que le stade est plein, parce qu'il y a un bel engouement, parce qu'ils savent que leur club est passé tout près de la catastrophe et ils ont envie de le soutenir, ils sont présents, et je pense que peu importe les résultats, ils vont vivre quand même une saison, je l'espère, pour en tout cas plus calme que les dernières. Et donc moi je
t'es pas inquiet, toi, quand tu vois l'effectif, quand tu vois ce qu'il y avait sur le banc,
je suis pas du tout inquiet, parce que entre l'entraîneur, entre le centre de formation, on a dit qu'il était moins performant qu'avant, mais il y a toujours quand même des pépites dans la région lyonnaise. J'y serai encore ce week-end, il y a beaucoup de clubs, il y a des très gros clubs amateurs, il y a des très très beaux clubs formateurs, et Lyon c'est très très un maillage qui est très très précis et qui arrive à récupérer quand même à chaque fois les meilleurs joueurs. Donc je pense qu'ils sont quand même pas loin de la vérité à chaque fois.
Je fais de l'info service pour ceux qui t'écoutent et qui t'adorent. Tu seras où ce week-end?
Je serai à Limonest.
D'accord, donc on pourra te voir samedi vers 18h, c'est ça?
Vers 17h.
Voilà, Kevin Diaz sera là, il signera.
Et c'est quoi les prochaines dates de ta tournée après?
On va pas refaire une deuxième émission sur Zitanos. Walid.
C'est vraiment un très très beau bassin de football.
Ça te paraît improbable d'imaginer Lyon top 4 Ligue 1 fin de saison?
Ce serait un miracle. Ouais. Pour moi, c'est.
Carrément.
À Fonseca, c'est magicien. Et pourtant, moi, j'ai.
Depuis la tribune, d'ailleurs.
Et pourtant, moi, j'ai.
Oui, depuis la tribune, il faut le dire.
Pourtant, moi, j'ai dit en début de saison que j'étais pas inquiet pour l'Olympique Lyonnais par rapport à ce qu'on en disait. Le catastrophisme, on parlait de maintien à un moment dans l'été, notamment. Donc, j'en suis pas là. Surtout avec les 9 points en 3 matchs. Par contre, si Paolo Fonseca, par rapport au recrutement de Marseille, les certitudes de Monaco, le mercato agressif de Strasbourg, par exemple, arrive à aller choper un top 3, voire un top 4, avec une attaque où il y a Satriano, Malik Fofana, qui sera ta star de ton équipe, mais qui est quand même fragile physiquement, Karabek, Alejandro Gomez, Molébé,
Schultz.
Si tu fais ça avec une Ligue Europa et une Ligue 1 à la fin de saison,
et
que tu fais un podium, alors attention, il y a aura peut-être la fenêtre de janvier où tu peux limiter la cage jusqu'en janvier et peut-être aller faire un prêt ou deux en janvier pour redynamiser tout ça. Mais sincèrement, ce serait un miracle pour moi. Ce serait très très fort de la part de Fonseca de faire un top 3 ou un top 4 en Ligue 1 cette saison avec les forces en présence. Moi, j'ai pris une claque quand même. Je pensais véritablement qu'ils allaient faire un mec réputé, référencé, en prêt. Une idée, une bonne idée pour aller essayer de mettre entre 10 et 13 buts au moins en Ligue 1. Moi, je le vois pas dans l'effectif aujourd'hui. Je vois pas ce mec-là capable de mettre entre 10 et 13 buts ou essayer même d'avoir 3-4 mecs. C'est un peu la règle des 10 buts.
Les 4
de
10, ouais,
le 4x10.
Les 10 buts, Tolisso peut
te les mettre. Oui, Tolisso peut te les mettre, mais il va falloir
qu'il... Fofana peut te les mettre aussi.
Je suis pas sûr de ça, il peut te les mettre, mais...
Nouama va revenir.
Nouama va revenir à un moment donné. Mais en tout cas, moi, j'ai pas la vision. Alors, comme l'a dit Kevin, il peut avoir... un joueur qui sort du chapeau avec un Alejandro Gomez qui se révèle ou un Molébé qui se révèle, il y a pas de souci, sauf qu'il était pas dans les plans de Fonseca depuis le début de la prépa. C'est bien qu'à un moment donné,
l'histoire d'une carrière
non, mais parce que à la base, il fallait un numéro 2 à Mikotadze, il fallait un ailier droit. L'ailier droit tu l'as toujours pas, et t'as même plus de numéro 9, t'as pas Mikotadze. Et Fofana, je répète, j'aime beaucoup Fofana, mais Fofana, si on regarde bien la saison dernière, il sort beaucoup à la 60e. Il a eu quelques pépins physiques en deuxième partie de saison.
Donc, là, Fofana, il a eu encore un peu.
Là, il est encore sorti à la 60e. Donc, Fofana, avec l'Europa League et avec la Ligue 1, Tolisso a fait une très grande saison l'année dernière. Est-ce qu'il va la refaire? En fait, avec cet effectif-là, t'as le droit à aucune blessure.
Mais c'est le vrai problème de Lyon.
C'est-à-dire que déjà,
au-delà du numéro 9, c'est la profondeur de banc.
Exactement. Parce que quand tu vois aujourd'hui le banc des remplaçants et même le 11, parce que le 11, t'as l'éclaircie du mois d'août. Où t'as ce 9 sur 9, avec des très belles surprises.
Mais d'ailleurs, on a suffisamment dit l'année dernière que Niakate était en difficulté pour souligner son excellent début
très,
de saison.
Bon. Il a été très très bon, un peu en difficulté contre Lens, mais très bon contre l'Olympique de Marseille.
Il a fait
un super match, même contre Metz, il a été bon, mais ça faut que ça tienne. Au milieu de terrain, la même chose. C'est-à-dire que Morton, qui est pour l'instant le chef d'orchestre de cette équipe, quand tu vas devoir aller en déplacement le jeudi, est-ce qu'il va faire des gros matchs en Ligue 1? Voilà, moi, sincèrement, la normalité, ce serait que l'Olympique Lyonnais ne soit pas top 5 cette saison,
oui,
avec l'effectif. La normalité, et moi, l'exigence envers l'Olympique de Lyonnais sera très faible cette saison chez moi.
T'es pas dans la salle d'attente.
Vu l'effectif,
c'est compliqué d'attendre.
Je suis agréablement surpris par l'Olympique Lyonnais et par Fonseca. Après, je te dis pas, ils doivent pas faire 13e, surtout avec ce début de saison.
Mais si tu fais mieux que ça,
pour toi, s'ils font 6e, c'est déjà
très bien. Je signe tous les jours. Tu me fais une petite histoire en Europa League et t'as pas eu de problème financier et l'an prochain
par contre je pense qu'il y aura pas d'histoire en Europa League parce que la structure
l'OL a un ADN européen
mais là tu vas pas pouvoir
ils foutent jamais la honte à part à l'Opel Astra à l'époque etc mais souvent souvent en Europa League c'est sérieux puis ils ont un calendrier qui est pas dinguissime ils ont pas le calendrier de Nice par exemple
mais le problème c'est que je pense que t'as pas l'effectif pour jouer les deux compétitions de front tu peux pas enchaîner moi j'imagine mal le petit Morton par exemple enchaîner tous les trois jours tu vois jouer le jeudi le dimanche. Pareil pour Fofana, pareil pour Tolisso. Devant, c'est le grand point d'interrogation. C'est-à-dire que Satriano, ok, c'est un mec qui peut, s'il est en pleine forme, te mettre les 10 buts, mais il sort de graves blessures.
Même
il a jamais.
C'est quoi son pédigré à Brest
Il a jamais fait d'énormes saisons. En termes de stats, il a jamais fait d'énormes saisons, Satriano.
Il était avec Mounier en concurrent. C'était un joueur, pas d'un point,
après,
mais.
Il était jeune après.
Oui, bien sûr, mais c'était un joueur qui avait un profil.
C'est un profil
différent.
Pour nous,
un profil spectaculaire.
Donc Pierre Sage ne voulait plus à Lens. C'est Pierre Sage, il ne voulait plus à Lens. Tu récupères ce joueur-là. Moi, je suis comme Wadid, je suis très surpris. Surtout après le match de l'OM, il y a les dirigeants lyonnais qui sont venus parler à la fin du match, que ce soit l'entraîneur ou même je crois que Mathieu Louis-Jean s'arrête aussi en zone mixte et il dit d'ici demain on espère faire un ailier droit, un attaquant. Moi toute la journée d'hier j'étais là en train d'actualiser, je me dis ils en sont où l'OL etc, on a rien vu venir pour que finalement on t'explique que c'était un choix de pas faire de panic buy et
ça,
que
on nous ment. C'est
voilà, moi j'ai du mal à croire que Fonseca, Walid le disait tout à l'heure, il dit oui on va s'appuyer sur nos jeunes, mais les jeunes ils étaient placardisés depuis le début de saison. Molébé il était à deux doigts de signer à Séville et finalement on nous explique aujourd'hui qu'il va falloir s'appuyer sur eux et que Fonseca préférait ces jeunes là à des recrues.
Ça c'est la réalité quand même.
Mais Khalis Merah il s'est appuyé sur lui il était jeune parce qu'il était performant, il y croyait, il avait la vision sur la prépa.
Et c'était pas le cas des attaquants.
Sur Molébé, Alejandro Gomez, c'était pas le cas.
Oui, mais peu importe.
Non, mais c'est-à-dire sur la communication, là on est sur une communication de repli en nous disant bon finalement les jeunes maintenant vont se servir.
Les gars, est-ce que la communication c'est prendre pour des pimpins quand on te dit juste la réalité? La réalité c'est que tu viens de la décrire, donc personne n'est pris pour un pimpin puisque ils comptaient pas forcément sur eux à court terme puisqu'il y avait Mikotadze. Mais ben finalement, il n'y a pas Mikotadze.
Non, mais pour moi, eux, ils sont censés anticiper. Leur job, c'est d'anticiper le départ de Mikotadze et de dire qui on prend.
Ils ont anticipé puisqu'ils voulaient vendre à la base plus tôt.
Oui, mais on l'a su il y a une semaine, tu vois. On a su une semaine ou dix jours avant à la fin du mercato. Moi,
je suis pas d'accord avec eux sur le fait
qu'ils n'ont pas eu un coup d'avance.
Oui, mais ils peuvent pas avoir un coup d'avance. Ils n'ont pas d'oseille.
Bah, si, non.
Un coup d'avance, il faut avoir de l'oseille.
Regarde un mec comme Mathieu Bonnemer au Havre. Il arrive toujours. Il n'a pas de.
Non,
mais si tu bosses,
alors moi, j'ai une liste d'attaquants libres, les amis.
Des Joker,
d'accord, parce que c'est la seule possibilité pour Lyon de recruter un attaquant. Alors, j'ai lu aujourd'hui qu'ils avaient que l'agent d'Iheanacho l'avait proposé à Lyon, quoi. Finalement, on n'en a pas voulu à Lyon. Le Nigérian. J'ai quoi? J'ai Paco Alcacer, avant-centre libre depuis 1er juillet. J'ai notamment Johan Boli. J'ai Karl Toko Ekambi libre.
Ah ouais, le retour de Toko Ekambi là, on y est.
Karl Toko Ekambi.
Ouais.
Ça peut rendre service, tu penses?
Je sais pas ce qu'il faisait en Arabie Saoudite.
Quand on parle de Karl Toko
Ekambi, ça me rappelle des mauvais souvenirs.
J'ai Andy Delors qui est libre, avant-centre.
Ouais. Enfin, vu son passage à Montpellier, je pense pas que ce soit la meilleure idée quand même, Andy Delors.
J'ai Ibrahim Agnan libre. Voilà. Il y a rien d'incroyable en fait.
Rien d'incroyable.
J'ai Hakim Ziyech qui est libre. Je tiens à le dire aussi quand même. Pourquoi pas
Hakim Ziyech, un jour faudra faire un petit point
sur
jouer à droite.
Sur sa carrière, Hakim Ziyech.
On va quand même faire un petit point sur sa carrière.
Tout à fait. Jackal et les proches de Elche, me dit Najib Hakim Ziyech. Osema est avec nous, 32-16, supporter de l'OL. Salut Osema.
Alors bonsoir à tous les observateurs du foot.
Salut Osema.
Je précise, je ne suis pas supporter de l'OL, Nico quand même.
Ah bon?
Mais non, mais je suis un observateur du foot, je suis un apatride du foot, moi.
D'accord. Alors vas-y, ton regard sur Lyon.
Oui, la question de départ, c'était est-ce que le miracle lyonnais
peut-il tenir?
J'avoue que moi, pendant cet été, j'étais un peu, je ne vais pas dire choqué, mais un peu interloqué par les avis. Comme quoi, Lyon allait jouer le milieu de tableau, limite le maintien. Enfin, on n'est pas en première ligue, là. Donc, on a vu que en Ligue 1, il faut quand même être lucide sur le niveau de notre championnat. Le 11 lyonnais, il n'est pas dégueu. Mais je pense qu'avec ça, il y a moyen de faire un top 7 plus ou moins tranquillement, quoi. Parce que quand on voit Nice qui a régressé, là, visiblement, ça sent la saison galère. Lille, bon, ils se sont un peu rattrapés à la fin du mercato, mais c'est un nouveau cycle. Lens, pareil. Je comprenais pas trop ces avis qui disaient qu'il allait avoir une saison hyper compliquée à Lyon. Alors que bon, c'est vrai qu'au niveau du banc, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit plein de choses, je suis d'accord. Au niveau du banc, ça va être compliqué. Mais niveau top 7, ça, enfin, je pense que c'est largement faisable. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais,
après, il y a des matchs. De toute façon, l'Olympique Lyonnais, même avec la, avec le peu de matériel à disposition, peut-être que l'histoire. Qui vont nous raconter avec la détermination, un supplément d'âme, des joueurs qui sortent. Pourquoi pas? Mais il faudra, moi je pense que si ça arrive, il faudra valoriser énormément le travail de Fonseca, des joueurs, parce que là maintenant, la saison leur appartient.
Hein. Et ça s'est déjà vu en Ligue 1 que ce n'est pas les plus gros budgets qui arrivent au bout à la fin.
Faites-nous rêver, tu ne sais pas ce qui peut se passer. T'as parlé de Nice qui, avec le début de saison catastrophique, les recrues, un enchaînement de mauvaises décisions, un Francaise qui peut prendre la porte ou qui peut démissionner. Il y a des choses qui peuvent arriver chez les concurrents qui peuvent servir à l'Olympique Lyonnais.
Aussi beaucoup parlé d'individualité à Lyon, mais tu sens qu'il y a un esprit de corps, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. Tu sens que Fonseca a réussi à fédérer les mecs, que peut-être la situation chaotique en coulisses tout au long de l'été les a permis aussi de se fédérer. Moi, j'ai trouvé marquante quand même les images de l'hommage à Mikotadze à la fin du match.
Ouais, très belle.
Tu sens qu'il y a un vrai groupe à Lyon et parfois tu peux être porté. T'as pas obligé d'avoir que des cracks dans ton équipe. Si t'as des bons joueurs et que t'es.
Mais s'il y avait une saison de Ligue 1. Je serais un peu plus optimiste.
Oui, c'est la Coupe d'Europe qui. Après, c'est pour ça que je te dis, moi, je les imagine pas performer en Europe.
Oui, je suis d'accord.
Tu penses qu'ils vont la bazarder, l'Europa League?
Je le souhaite pas, mais si t'es réaliste.
Jimmy, la priorité évidemment Ligue 1.
Oui, mais t'es joueur, tu peux pas bazarder une Ligue Europa.
Bazarder, c'est un grand mot.
Il n'y a pas à bazarder. Moi, je pense pas, je suis plutôt comme Walid. Moi, je pense pas qu'ils vont bazarder l'Europa League parce que aujourd'hui, les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se mettre en avant. Et n'oubliez pas un truc dont j'ai parlé tout à l'heure.
Vas-y, rappelle-le-nous, Kevin.
Rappelle-le-nous, ouais.
C'est important, parce que parfois, on oublie ce que tu dis.
Non, à Limonest, c'est ça.
Chambrouillon, là, Chambrouillon.
D'ailleurs, tu joues pas à Limonest, hein. Tu joues à Limoné. Ouais, Limoné dit sur WhatsApp.
J'ai dit Limoné.
C'est ce qu'il a dit.
Il a dit Limoné.
Non, il a dit.
Non, il est fort.
Il
l'a
dit. Mais
tu peux pas l'avoir.
Mais le stade de Lyon, le stade de
Lyon. Je l'aurai un jour.
Le stade de Lyon, il est extraordinaire. Donc aujourd'hui.
Ah d'accord. Non, ah,
aujourd'hui, t'es un joueur.
C'est ça en fait que tu voulais nous rappeler.
Bah, je te dis que en Europa League,
le stade c'est quand même 60 000 personnes. Hein.
Ouais, mais est-ce que tu vas faire 60 000 en phase de poule de Europa League?
Mais vous oubliez un truc. Le stade il s'appelle Groupama. Hein.
Exactement.
C'est Parc OL maintenant.
Le Parc OL.
On apprend des choses.
Et donc moi je te dis que quand t'es joueur, quand tu même si t'es Morton, même si t'as.
C'est important l'engouement autour.
Bien sûr. Les jeunes.
Le bruit des supporters
de Prague.
Je suis assommé de l'argument.
Ils arrivent.
Attends.
Ils arrivent là.
Est-ce qu'on a un jingle à vitrancher, Kevin Diaz, s'il vous plaît? Parce que celui-ci, on va
dire. Il y a un truc qui est là. On est
bolos. Envoie-moi un jingle à vitrancher.
Pour un petit Adam Karabek, là, de jouer l'Europa League.
Il a évoqué le Training Center.
Pour un Khalis Mera jouer la Coupe d'Europe à domicile, aller faire des voyages. Moi je vous dis que tu vas être plus motivé le jeudi en Coupe d'Europe que pour aller à Lorient ou pour aller à Strasbourg.
Ça je peux te rejoindre.
Donc voilà. Donc,
mais en Ligue 1 c'est même ça aussi.
Vous souriez mais
jingle à vitrancher Kevin.
On y va.
Je l'ai vu la dernière année quand il jouait à Lusitanos. Mais bon, c'est quand même le meilleur tireur de coup de pied arrêté que j'ai vu de l'année. Toutes divisions confondues.
C'est quoi la vitrangée, Kevin Diaz, le stade. Les supporters, c'est important.
Le stade va aider Noël cette saison.
Bien sûr, le stade va aider ces jeunes joueurs à se transcender en Coupe d'Europe.
D'accord. Capsule. Là, on envoie TikTok, Insta. Là, on envoie
tout découper, là, les CM.
D'ailleurs,
on va faire 200 000 vues.
D'ailleurs, vous venez de passer un extrait de l'excellent Bruno Satin.
Tout à fait.
Qui est bien sûr complètement d'accord avec moi sur Balerdi, qui ne peut pas défendre sans faire une faute.
D'accord.
Voilà, ça c'était pour Walid.
Est-ce qu'il est d'accord sur l'importance du Parc OL? On verra
combien de matchs ils vont perdre.
Tu nous fais le point Satin à chaque fois sur tes analyses.
Voilà, exactement.
Voilà pour Lyon. Merci Osema, observateur du foot.
Merci beaucoup, je vais noter. Salut, donc,
c'est qui ton club du coup?
Les supporters peuvent aider les joueurs. Je vais noter.
Oh, il chante Osema, il y va.
C'est qui ton club toi du coup? Monaco?
Non, je suis un apatride du football, Kevin.
Ouais, j'y crois pas trop à ça.
J'aime le beau jeu, voilà.
Mais toi aussi, Kevin, finalement?
Non, moi je suis pour mon club, moi. Saint-Maurice-Thanos.
Ah, d'accord. Mais t'as pas d'autre club?
T'es pas sympathisant de club?
C'est mon club.
D'accord.
Il y a un club dans le sud de la France que t'aimes un peu plus que d'autres.
Quand j'étais jeune, je préférais l'OM que Paris.
Ouais.
J'aime bien aussi Benfica, si tu veux savoir, mais mon club, j'en ai qu'un seul.
D'accord.
C'est le seul club, peu importe contre qui il joue, je serai pour eux.
Aux Pays-Bas, t'as un club?
Non, pas du tout.
D'accord.
Supporter de Porto, on vous attend au 32-16. Merci à Osema. Très bonne soirée à toi. On prolonge l'after dans Génération After.
On est sûr de prolonger l'after après ce qu'on a entendu là, parce que
on va déjà prolonger Génération After.
D'accord, ok.
Avec l'avis de Jimmy, il a attendu. Où est l'expert Jimmy de Red Bull sur le marché du PFC? Le temps, le score, le basket, France-Pologne, l'Euro, Clément.
C'est chaud, très chaud, 41-39, les Polonais sur la ligne avec Sokolowski pour passer ce score à 41-40. Il reste 1 minute 26 avant la pause. On a pris un 11-2 là pendant ce second quart-temps qui nous a fait très très mal avant de remonter. Vous savez quoi? Eh bien, les supporters polonais vont peut-être aider la Pologne.
Allez, on revient dans un instant pour la suite de Génération After où Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Brown. Elle part bien cette saison, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Kevin Diaz. Walid Acherchour, Jimmy Brown. Génération After est là pour la dernière demi-heure. On passe à la main à l'After tout à l'heure. Flo Gautreau, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Gilbert Ribois. On pense quoi des débuts de Jean-Louis Tour dans l'After, les amis?
Très bon.
Excellent.
Très bien.
Il apporte beaucoup. Hein.
Game
apporte
changer. Beaucoup.
Exactement.
Comme dirait
Kevin. Il
très game changer sur Strasbourg hier aussi.
Pour moi, c'est le meilleur avis de la rentrée. Le meilleur avis tranché. Juste derrière ce Kevin, qui était très très bien. Mais je trouve que celui de Strasbourg, il a éveillé les consciences sur Strasbourg.
Il a beaucoup tourné aujourd'hui.
Il a beaucoup tourné.
Et beaucoup fait réagir.
Exactement.
Puis en plus, c'est documenté.
Il y a eu deux avis tranchés aujourd'hui. Celui de BFM Marseille sur Pavard, qui a beaucoup beaucoup tourné. Et celui de Jean-Louis Tour.
Tu peux citer ta nom
Marseille. Ah non, j'ai pas les noms.
Qui dit pour lui noms. C'est le plus sûr côté du monde.
Exactement.
De l'histoire du foot.
Et à Guerre, c'est un latéral droit.
Mais non, il y a eu deux.
On salue nos camarades de BFM Marseille. Il y a eu deux avis tranchés.
Présentés par l'excellent Jean-Louis.
Qui ont fait le buzz. Qu'on salue,
absolument.
On a le droit de pas être d'accord avec ça, Nico.
Le basket. France-Pologne, c'est la mi-temps. Clément Brossard à l'Euro.
Et on est dernière, Nico. 44-41 pour la Pologne. On avait pourtant bien maîtrisé le premier carton, 27-24. On prend moins 6 sur le deuxième carton avec beaucoup moins d'efficacité, notamment pour nos intérieurs. Et ça marche toujours pas. Hein. Derrière la ligne, on était déjà en difficulté depuis le début de la compétition. On n'arrive pas à régler la mire. Les Polonais sont bien présents. 44-41, 3 points d'écart en faveur de la Pologne.
Allez, génération after, alors que Alcaraz est en train de balayer les Hetchas, hein, et de prendre son ticket pour les demi-finales de
l'US Open. C'est US Open. J'ai l'impression qu'il y a des surprises, qu'il y a des...
Je suis pas entré dans mon US
Open. Ouais, qu'il y a des gros coups, qu'il y a des gros matchs. Il n'y a pas un décalage entre les gros et les petits, quoi.
T'as enfin, fait. Ouais. Pas du tout, faut pas absolument du tout,
ouais,
pas.
Parce que Sinner hier, c'est quoi, 600-600-600
sur
Bublik, ouais.
Mais, ça va. C'est bien.
Bublik est quoi, 400e mondial, non?
Issu des qualifs, en tout cas, wildcard.
Exactement. Beau
alors,
circuit.
Beau circuit.
La folie Paris FC. La hype Paris FC. Tout le gratin qui était là-bas. Samedi, dont Jimmy Brown, bien sûr.
Exactement.
Avec son fiston, qu'on salue, hein.
Absolument.
D'ailleurs, qui nous écoutera peut-être en podcast. Tu pourras.
Si t'as demandé le maillot ou pas?
Il m'a demandé le maillot, ouais.
Celui de Kebab?
Bah oui,
non, c'est normal. Le maillot de Max Lopez.
Ah.
Est-ce qu'il s'est identifié avec Max Lopez parce qu'il est petit?
Je sais pas, mais il m'a demandé le maillot. Tu sais quoi? Il m'a même pas demandé il m'a demandé le maillot de Julien Lopez. Parce qu'il était venu à Charletti l'année dernière, il m'a dit, ouais, Julien, c'est les, est-ce qu'il va rentrer, les deux frères, etc.
Ça, c'est le pas de côté des Browns.
Il est dedans à fond.
Ouais, il est dedans.
T'es en train de créer la communauté PFC.
Il aime bien.
PFC, pour l'instant, deux défaites, une victoire. La dernière, c'est face à Metz. On en a parlé, on l'a débriefé dans l'after. 15e pour l'instant, est-ce que la saison est lancée? C'est pas l'objet de l'avis de Jimmy, qui veut nous dire ce soir, qui se pose une question. Où est l'expertise de Red Bull sur le mercato du PFC? Jingle Jimmy Brown.
De temps en temps, je passais à l'antenne et je me faisais évidemment défoncer par Daniel à l'antenne. Ouais, tu racontes n'importe quoi, tu captes rien.
Ouais, c'est vrai. À l'époque, ça se passait comme ça. Mais il n'y a pas la petite virgule de fin, moi, sur mon jingle. C'est assez cheap, hein, Paul. Tu mettrais une petite virgule quand même pour la prochaine.
On sent le prod.
Non, mais je voulais revenir effectivement sur le mercato du Paris FC. Moi, je me souviens de la première conférence de presse, la première prise de parole d'Antoine Arnaud en tant que propriétaire du club. Il avait dit ça. Il avait dit Red Bull, c'est un partenaire sportif. Ils vont nous aider sur plein d'aspects à recruter les meilleurs joueurs et à les dénicher mieux que les autres. Et en fait, quand tu vois le mercato, j'ai presque envie de paraphraser le grand Eric Blanc. Moi, quand je dis ça, je me dis qu'il va y avoir Mission Impossible en retour, quoi, avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. Et finalement, on se retrouve avec
Danny Boone.
Voilà, avec Danny Boone, c'est un peu ça. Non, mais
et Franck Dubosc.
Après, franchement, au-delà de la vanne, c'est des bons joueurs qui sont arrivés au PFC. Moi, j'étais au match dimanche. Il y a une belle philosophie de jeu. En plus, ça veut jouer l'offensive. T'as des joueurs sympas. Je fais un petit récap. Donc, Thibaut Desmet, William Jebel, Jonathan Ikoné qui est arrivé, qu'il n'a pas encore joué. Pierre-Yves Melou qui, lui, pour le coup, sur les 20 minutes qu'il a joué, il a complètement changé la physionomie du match. Et ça va être une vraie plus-value pour le PFC. Noah Sanghi, Otavio, Moses Simon, Amari Traoré, Kevin Trapp. Finalement, hors Otavio, je vais y venir dans un instant. Tous les joueurs dont on parle là, c'est des joueurs estampillés Ligue 1 en fait, qui ont déjà connu la Ligue 1. Et je vois pas vraiment l'apport de Red Bull là-dedans. T'as pas besoin de Red Bull pour aller chercher Pierre-Yves Melou, pour aller chercher Moses Simon. Le cas le plus emblématique, c'est peut-être Amari Traoré qui a signé là en fin de mercato. On nous a expliqué qu'Amari Traoré, ça fait depuis juillet que le PFC le veut. Finalement, Red Bull avait freiné pour Amari Traoré.
33 ans hein, aussi, ouais, c'est ça.
Oui, mais il était question de faire venir des jeunes joueurs à fort potentiel. On a parlé d'Arthur de Leverkusen, on a parlé d'Antoine Gay qui joue à l'Ajax, Kéké. On les a pas vus finalement. C'est Amari Traoré qui a signé en toute fin de mercato. Résultat des courses, Stéphane Gilles a dû commencer la saison sans latéral droit de métier. Il l'a payé, je pense, sur les premières journées de championnat. Et il y a aussi un autre truc, c'est que moi je veux bien Jürgen Klopp, il en avait parlé aussi à Antoine Arnaud lors de sa entraînisation à la tête du PFC, enfin lors de sa première prise de parole, il avait dit il nous apportera son expertise, mais bon, à part prendre la photo avec la casquette par IFC, c'est très bien. Moi j'attendais un peu plus de Red Bull. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Red Bull, ils arrivent finalement pas dans la meilleure phase. Dans leur meilleure phase à eux, quand tu vois les autres clubs, tu vois Leipzig, ils sont pas en surperformance ces derniers temps. Salzbourg, il y a énormément de joueurs qui sortaient dans des gros clubs. C'est plus trop le cas ces dernières années. Donc je sais pas si le logiciel bug un peu en ce moment en termes de scouting chez Red Bull, mais on n'a pas vu cet apport-là. Et je suis un petit peu déçu. Et moi, je pense que quand t'es à Paris, vu la concurrence évidemment du PSG. Là, t'avais 17 000 à Jambon ce week-end. Encore une fois, c'est une philosophie.
C'était pas guichet fermé, je précise.
Non, c'était pas guichet fermé. 19 800 au complet. T'avais quelques sièges vides. C'était quand même une bonne ambiance. C'était agréable. Tu sens que Stéphane Gilly, c'est un coach qui est porté vers l'offensive. Très bien. Il y a une philosophie de jeu. Il y a des idées. Mais si tu veux remplir et si tu veux pérenniser un public à Paris, je pense que tu as besoin de têtes d'affiche. Et ces têtes d'affiche-là, avec tout le respect que j'ai pour Pierre-Yves Melou, qui encore une fois est un super joueur, je pense pas que tu fasses venir des gens au stade avec ces joueurs-là, malheureusement. Et ça va être un vrai sujet pour eux. Surtout qu'on sait qu'il y a des moyens, puisque j'en parlais encore avec Aurélien Tiercin qui les suit régulièrement. Jusqu'au dernier jour du mercato, on parlait de 30 millions possibles pour Stassin. Il y avait Kevin Zabi qui est à Reims, ils étaient prêts à mettre jusqu'à 20 millions d'euros. Donc c'est-à-dire qu'il y avait les moyens de faire des joueurs. Ces joueurs-là sont pas arrivés. Moi, je trouve ça un peu décevant pour l'histoire que veut raconter ce club-là. Après, ils sont quatrième budget de Ligue 1. Pour atténuer un peu mon propos, il y a les 140 millions de budget. Je sais qu'il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits à Jean-Bouin, qu'ils ont aussi aménagé
le centre d'entraînement,
les féminines, le centre de formation. Ils sont en train de structurer ce club-là et je sais que Red Bull les aide aussi à structurer ce club. Mais sur le recrutement en lui-même, je vois pas vraiment d'apport sur Red Bull et j'espère que c'est pas Otavio parce que je veux pas condamner Otavio au bout de 3 matchs.
Mais ça pue la carotte quand même.
Sur les 3 ils ont mis 17 millions. Moi j'ai vu le match déjà au Vélodrome. Il est sur la photo sur 2 ou 3 buts. Là j'étais au stade encore. Sur coup de pied arrêté sur les duels c'est compliqué.
Mbo est bien meilleur.
Sur la relance Mbo il est largement meilleur que lui. Sur les relances c'est compliqué. Dans la gestion de la profondeur c'est compliqué. Et c'est celui qui t'a coûté le plus cher. Donc j'espère que c'est pas lui le seul recrutement estampillé Red Bull.
L'alternative c'est Kolodziejczak. Ou Samir Chargui.
Et tu vois pas une énorme
premier but que tu prends à Angers, il est fautif.
C'est compliqué.
Dans ton avis, t'as quand même donné une partie de la réponse. C'est que certes, ils veulent pas s'enflammer. Moi, je trouve ça plutôt intelligent de pas un gars comme Amari Traoré. Pour moi, c'est un très très bon coup.
Mais bien sûr, mais fais-le d'entrée. Pourquoi t'as attendu autant de temps? Tu vois, ils ont bloqué. On veut d'autres joueurs, etc.
Ça doit pas être si facile à faire. Peut-être qu'ils voulaient un joueur un peu plus jeune.
C'est ça. Ils voulaient un joueur plus jeune. Ils avaient son accord, mais ils voulaient un joueur plus jeune. Ils ont rouvert cette piste.
Ça peut s'entendre. Après, comme tu as dit, le Paris FC, c'est quand même un club que nous, en tout cas en région parisienne, on suit depuis un long moment, voire des dizaines d'années, et c'est un club qui avait besoin de se structurer d'abord. Alors même si le président Ferracci et toute son équipe a fait un gros boulot, il fallait encore, comme tu dis, structurer le centre d'entraînement à Orly, que ce soit le centre de formation. Bon, les féminines, je maîtrise un peu moins, mais il y a encore un chantier qui est énorme au Paris FC. Ils découvrent un nouveau stade. Ils voulaient peut-être pas avoir une crise de croissance trop importante, et aussi. Le recrutement, plus tu recrutes et plus tu vas avoir une attente qui va être démesurée. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ont, je pense, de la réserve financière pour le prochain mercato.
C'est ça, pour janvier.
Pour réagir au cas où, comme ils ont fait un peu l'année dernière, où ils ont fait quand même un petit pas en avant dès janvier en prenant des joueurs importants.
Ils font Crasso en janvier.
C'est Cafaro qui leur fait beaucoup de bien.
Ils font Cafaro.
C'est
des joueurs qui ont permis au Paris FC déjà de sauter une étape parce qu'ils s'étaient laissés 2 ans pour monter. Là, ils sont montés. Je pense qu'ils veulent essayer de se maintenir tranquillement en Ligue 1 pour ensuite appréhender le niveau avec des infrastructures meilleures. Parce qu'aujourd'hui, tu fais signer des gros joueurs, mais tu les amènes dans des infrastructures qui sont pas encore ou dans un club qui est en plein développement. C'est pas facile non plus d'ensuite.
Est-ce que le costume est pas trop grand pour les dirigeants aujourd'hui?
Qui décide, c'est quoi la ligne de décision?
Est-ce qu'on a des articles aujourd'hui sur le PFC qui gère le mercato, qui a décidé?
Non, on m'a expliqué que le PFC avait sa propre data avec François Ferracci. Il est accompagné. J'ai pas envie d'écorcher son nom. Il a quelqu'un d'autre qui bosse au recrutement avec lui. Eux, ils ont leur propre base de données. Donc c'est eux qui proposent les profils à Red Bull, qui doit ensuite valider.
C'est Red Bull qui valide
la venue des joueurs. Mais c'est pas Red Bull qui est porte de proposition.
Pourquoi on n'a pas eu de joueurs Red Bull? On parlait d'Aïdara à un moment donné.
Bah voilà, par exemple, il aurait pu changer le visage de l'équipe.
Par exemple, Leipzig, on l'a bien vu sur le mercato, vu qu'ils n'étaient pas en Ligue des Champions, ils ont vidé le placard. Openda, Gertruda, je te dis pas que Xavi Simons ou Chesko allaient venir au PFC, mais un joueur ou deux utiles pouvaient venir aider le Paris FC. On a beaucoup parlé de Strasbourg et Chelsea, c'est pas la même chose, c'est pas la même pas le même partenariat. C'est pas de la multipropriété, mais j'aurais
attention, elle est des partenariats comme
différence. Non, d'accord, mais oui, mais j'aurais aimé quand même que avec Salzbourg, avec
j'ai l'impression que la collaboration avec Red Bull, c'est plutôt effectivement comme dit Jimmy, c'est analyser les joueurs ciblés pour savoir s'ils vont apporter vraiment une plus-value.
Oui, mais on aurait attendu Antoine Arnaud, il nous disait au départ, ils vont nous aider à dénicher les meilleurs profils et des prospects.
Oui,
on a pas vu ces prospects-là. Oui, ils ont 10%, mais c'est
10%. Il y a peut-être de la com, de l'aide dans la structuration du club à Red Bull. Il y a un projet club qui est mis en place depuis maintenant des années qui leur permet d'aller dénicher, d'avoir une méthodologie de travail. Ça, pourquoi pas? Mais maintenant, Red Bull, ils vont arriver, mais même Jürgen Klopp, il va venir, il a jamais mis les pieds à Orly, il a jamais mis les pieds.
Ça y est, il a fait ce qu'elle a fait.
Oui, mais je veux dire, avant ça, il avait jamais mis les pieds là-bas. Il sait pas ce que c'est.
Mais ils ont un émissaire pas club, mais il y a quelqu'un de Red Bull qui vient régulièrement, etc. Qui aide à structurer
toutes ces choses-là.
C'est pas en été
ou en 6 mois que tu vas structurer un club, arriver en Ligue 1, les réalités de la Ligue 1 d'aujourd'hui.
Moi, je reste persuadé qu'ils perdent du temps de toute façon.
Oui, mais après, je pense aussi à leur décharge.
Là, ils ont perdu du temps, mais comme aujourd'hui, ils viennent de remonter en Ligue 1, que les personnes qui sont aujourd'hui à la tête du club Bah, je suis persuadé que moi, dans un an, on les reverra plus, on les reverra plus, et qu'il y aura un ménage, et que le projet va véritablement se lancer dans un an.
Alors, Deschamps, c'est peut-être difficile aussi de tourner la page d'une équipe qui t'a fait monter en Ligue 1.
Parce qu'il faut respecter Stéphane Gilly et les joueurs qui t'ont permis de monter, le coach,
la direction. Sauf que Paris, c'est particulier. Pour remplir à Paris, ça va être dur. Tu vois, là, c'était fin août, il y a l'effet première, etc. Moi, j'attends de voir en octobre, novembre, est-ce qu'ils vont réussir.
Tu peux pas faire de virage brutal, mais attention, si les résultats ne vont pas dans le bon sens, il va y avoir des grandes décisions dans les prochains mois. Moi, j'en suis persuadé.
Peut-être. On verra. Si tu fais la comparaison avec Ribolovlev quand il reprend Monaco et qu'il monte en Ligue 1, tout de suite, c'est pas leur projet. Il l'avait annoncé, de toute façon.
T'avais les prix aujourd'hui, quand même.
Oui, mais ce que je veux dire, entre Ribolovlev et ce que tu fais là, il y a quand même une marge.
Les joueurs qui sont venus à cette époque-là, c'est 70, 80, 100 millions.
Non, mais moi, ce qui me dérange, Kevin, c'est que tu n'as pas le Maxime Lopez de la Ligue 1. Pour le PFC. Parce qu'en fait.
C'est-à-dire
quoi? T'avais un joueur surdimensionné pour la Ligue 2 avec Maxime Lopez.
Le PFC, ils prennent Maxime Lopez, mais normalement, on ne doit pas aller au PFC en Ligue 2. Mais qui se dit, je fais un pari en allant au PFC, si je l'ai fait monter,
après,
je vais avoir.
Il y a d'autres raisons personnelles aussi,
Oui, d'accord, mais au-delà de ça, je vais faire un pari sur le long terme parce que je vais avoir un poste important en Ligue 1, je vais être capitaine avec un bon salaire. J'aurais imaginé.
Le pari a été réussi, il s'est baladé la saison dernière et il a fait monter.
Mais j'aurais imaginé que le PFC fasse la même chose à l'échelle de la Ligue 1 en disant. On va aller chercher un gros nom qui lui aussi, comme à l'époque du PSG, QSI avec un Menez, avec un Matuidi, etc. Des mecs qui se disent bon les gars, bah on croit au projet, mais on sera là sur le premier étage de la fusée, ce qui va nous permettre derrière de faire passer une étape au club. Et ça pour le coup je l'ai pas moi. Alors laisse Melou, Amari Traoré, mais j'ai pas ce joueur là. Peut-être que André était ce joueur là qu'ils ont pas réussi à faire.
Laisse Melou dans leur, je pense que il va remplir
le mec de 24-25 ans qui te lance véritablement ton projet.
André, c'était le même profil que Yesmelou, tu vois.
Mais là, t'es pas le PSG, là. Ouais, t'es pas le PSG, t'es en
Dunité. T'es à Paris quand même, t'as de l'oseille.
D'accord, mais t'as de l'oseille, oui et non, parce que aujourd'hui, l'oseille, il est vraiment en Angleterre. La famille Arnaud qui récupère le Paris FC, ça reste une famille de grands entrepreneurs, d'accord.
C'est le deuxième pays mondial, je crois. S'ils veulent vraiment, il y a.
C'est le Blueco et compagnie, attention.
Oui, d'accord, mais c'est pas la même chose. Là, vous parlez de mecs qui investissent pour le foot. Là, ils sont pas OK, ils savent qu'ils ont de l'ambition, mais ils l'ont dit tout dès le départ. Ils savent que le club, il va pas se faire en un jour.
Non, oui, Kevin, mais là ils se mettent en situation de danger. C'est ce que veut dire un peu Walid.
Danger, j'irai pas jusque-là.
Parce que la Ligue 1, c'est fragile, en tout cas.
Ils perdent du temps. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé que le PFC, dans une saison de Ligue 1 où il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas d'argent, de profiter. Pour réduire le gap très rapidement. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils le fassent.
L'objectif, c'est entre 8 et 12, hein, c'est ça.
Ils veulent un maintien tranquille. L'objectif affiché, c'est ça. Moi, j'ai pas peur pour la place du PFC en Ligue 1. Mais dans l'histoire que tu veux raconter, si tu veux amener du monde, encore une fois, si tu veux créer quelque chose, t'as besoin d'avoir une tête d'affiche. Mais cette tête d'affiche, je l'ai pas retrouvée malheureusement.
Il faut créer des supporters, une communauté.
Et même le côté. Le côté jeune prospect, etc., on l'a pas trop eu.
Ouais, exactement. Bon. Même les joueurs excitants.
C'est ça.
Bah, hormis Ilan Kebab.
Bah, Simon, apparemment, c'est votre crack absolu.
Oui, d'accord.
Donc,
j'aime bien Simon.
Vous avez fait 3 émissions là-dessus.
Non, mais j'aime bien Maurice Simon.
Simon, c'est un bon joueur. D'ailleurs, c'est lui qui fait. Il n'y a pas de prêt. Les joueurs qui te font gagner, c'est Pierre Yesmedou quand il rentre, c'est Moses Simon.
C'est lui, les joueurs sont dimensionnés.
C'est les joueurs qui sont dimensionnés.
Les joueurs frissons un peu jeunes qu'on disait à Lille. Ces joueurs-là qu'on a envie de regarder. Excuse-moi, Nico, c'est pas parce que t'as perdu un débat il y a 3 mois.
J'ai pas perdu un débat.
T'as pris l'eau complet.
On fera le débat.
Pour le Paris FC, tu as pris l'eau sur le débat sur le Paris FC où t'avais des attentes, où tu pensais que ça allait être la rentrée.
Les gens ne comprennent pas, les gars. Il faut vraiment, en fait, c'est l'émission du soir. Arrêtez de repartir il y a 3 mois en avant. Surtout en plus que.
Parce
que
t'as un auditeur qui t'a appelé pour
ce que tu veux sur
l'île. J'avais dit que Moses Simon à 5 millions, c'était un bon coup. J'avais le droit de le dire ou pas?
C'était pas 5, c'est un peu plus, je crois.
6 millions.
Je crois que
7, 8,
7 millions.
Sous les yeux. 7 millions, c'est un bon coup quand même.
C'est pas 12. C'est un bon coup. 7 millions d'euros.
C'est un très beau coup.
On pouvait le dire, monsieur Jamin.
C'est pas un très beau coup.
On pouvait pas le dire.
Et il leur fera gagner des matchs, Moses Simon.
Exactement.
Allez, dans un instant, On va parler de Rennes. Ouais, d'abord, c'est reparti maintenant. Au basket, le troisième quart-temps, l'Eurobasket France-Pologne. La France est donc toujours menée, Clément Brossard.
Reparti depuis 15 secondes, menée de 3 points, 44 à 41, avec des fiches de stats à parfaire, évidemment. 25% à 3 points, trop peu insuffisant. Prendre 44 points en une mi-temps, c'est aussi beaucoup trop pour cette équipe de France-là. Il faut revoir ce qu'on a vu, notamment face à la Slovénie il y a quelques jours de cela. Il y a encore du temps pour nous faire mentir. 44 pour la Pologne, 41 pour l'équipe de France.
Allez, la suite de Génération After. Dernier quart d'heure à venir sur RMC. Merci d'être avec nous, avec Jimmy Brown, Kevin Diaz, Walid Acherchour. On est là tous les soirs de 20h à 22h. L'after arrive également dans la foulée. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, Walid Acherchour et Kevin Diaz, alors que Walid nous reparlait de sa série de l'été. En l'occurrence.
Pleine orientale.
Pleine orientale.
Ouais, j'ai beaucoup aimé, même si la fin. Elle m'a un peu déçu la fin.
No spoil. Tout le monde a pas vu la série.
Enfin, c'était il y a 6 mois quand même.
Tout à fait. Ouais. avant, parlons de Rennes.
Reda Campana, j'aime beaucoup Reda Campana.
Tout à fait. Sosie d'un joueur de foot d'ailleurs. Oui, ça me baignait d'air.
Exactement, c'est
tout
vrai.
Tout à fait. Le football Rennes, bien sûr. On balaye un peu quelques clubs de Ligue 1. On fera du Nice demain également. Supporters niçois, on vous attend. Êtes-vous inquiet après ce début de saison? Regard des contours de l'effectif également pour Franck Hez aussi. On en parlera demain dans Génération After avec vous. Alors, Rennes peut-il redevenir un candidat en Europe? Je rappelle, Rennes, saison, j'allais dire épouvantable, qui a été un peu rattrapée par Habib Bey. 12e finalement de la saison dernière. 9e cette saison après 3 journées. Une victoire, un nul, une défaite, dont une claque à Lorient, c'est bien ça, j'ai pas de bêtises, 4 buts à 0. Je rappelle le mercato rennais quand même, Quentin Merlin, Valentin Rongier, Madi Camara, Frankowski, Esteban Le Poll, et donc Brel Mbolo qui est arrivé en toute fin de mercato à Rennes, pour on imagine une attaque à deux, Le Poll, Mbolo, pour les départs, je vais pas tous les faire, mais Truffert, Assignon, Matusiwa, Santa Maria, c'est déjà parti, Rieder est parti également en fin de mercato, voilà pour le mercato rennais. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Rennes surtout peut espérer avec cet effectif-là, avec Habib Bey cette saison?
J'attends l'Europe, moi.
Ah ouais, c'est posé là.
Ah oui, non.
Ah bah, obligé.
Ah, mais moi, j'attends
top
l'Europe.
6. C'est un minimum. Top le 6, c'est un minimum.
La fiabilité des joueurs, l'expérience en Ligue 1, les salaires qu'ils ont donnés, le fait de ne pas jouer l'Europe cette saison avec un match par semaine, j'attends l'Europe.
Je pense qu'ils doivent être entre 4 et 5 masse salariale de Ligue 1.
La MS, elle est dingue.
À un moment donné, il faut y aller.
Après, il y a quand même une totale reconstruction dans cet effectif. On parle de Marseille, mais il y a eu énormément de changements à Rennes sur les 3 dernières saisons, avec certes des directeurs sportifs différents, avec des entraîneurs différents. Là, Bibey, j'espère pour lui qu'il arrivera à amener un peu de stabilité. Après, il y a des bonnes idées, quand même. Il y a des très bonnes idées, que ce soit les deux Marseillais, que ce soit Quentin Merlin, bien sûr, Valentin Rongier. Frankowski pour le système mis en place par avec des latéraux quand même qui sont souvent offensifs avec Habib Bey, c'est très bien. Merlin, c'est pareil. Moi, je trouve que Mbolo, j'ai un peu moins compris à partir du moment où ils ont fait avant Esteban Le Poll.
Ils voulaient un profil différent.
Ouais.
Un mec qui cale. Parce qu'ils étaient aussi sur Brobet. Ouais. Je préfère Mbolo à Brobet, moi.
Oui. Oui, je suis pas loin d'être d'accord. Après, Mbolo, ça reste un joueur qui est quand même particulier.
Qui marque pas de but, mais qui sert à
un collectif. Qui pèse sur une défense.
C'est vrai.
Gros volume.
Il est particulier quand même.
Ça peut être complémentaire avec Le Poll.
Oui, c'est ça.
Oui, ça peut être complémentaire en tout cas. Alors oui, bien sûr que avec les salaires qui ont été donnés, notamment depuis l'arrivée de, on sait pas exactement combien le salaire, mais de Seko Fofana et de Brice Samba, forcément il y a une attente sur cette équipe. Il y a un entraîneur aussi qui est intéressant. Alors j'entendais les derniers afters sur Rennes, Bey bashing, pas Bey bashing, je sais pas. En tout cas, moi je fais partie de ceux qui sont très agréablement surpris par le travail qu'il fait depuis qu'il est entraîneur, parce qu'il avait pas une expérience dingue avant, mais que ce soit au Red Star ou maintenant avec Rennes, ce qu'il fait, on sait qu'il y a une énorme attente quand un consultant prend un métier comme ça dans le foot.
Non, moi, ce que je disais, c'est qu'il doit être critiqué, enfin, il doit être jugé à sa juste valeur.
Exactement,
en tant qu'entraîneur, pas ancien consultant. C'est-à-dire qu'essayer vraiment.
Au Red Star, il a fait du super boulot.
Non, mais s'il n'est pas Rennes,
s'il n'est pas bon. C'est du très bon boulot à Rennes.
Non,
mais Rennes, il a sauvé le
très bon boulot. On va attendre.
L'année dernière, c'est du bon boulot.
Oui, il a rempli les objectifs l'année dernière.
On va encore en voir plus pour juger.
Bien sûr, on va attendre. Il est attendu. mais qu'on juge
temps.
Qu'on
là, juge il démarre une saison oui, avec un effectif qu'il a validé
non,
aussi.
Non, mais ça, c'est impossible. Malheureusement, les gens, c'est des rageux. Ah, il a été commentateur. Ah, il a été consultant. Il a donné des leçons.
Même en restant loin de tout ça, Kevin. Une fois que le maintien est assuré, ils font pas une bonne fin de saison.
Elle dégouline la fin de saison.
Après, je rajoute qu'il a pris du crédit aussi en étant consultant également.
Oui, bien évidemment. Mais moi, je veux juste qu'il soit jugé en tant qu'entraîneur. Par contre, moi, j'ai des attentes envers Habib Bey, envers Rennes, sur le projet de jeu, parce que je ne peux pas imaginer, et Nico, Rennes 8e de Ligue 1 cette année. Moi, je suis désolé. Avec Lens, qui a fait un recul franc financier, Nice, Lyon, aujourd'hui, qui est dans la panade complète offensivement, Rennes, tu entre l'Académie, t'as Jacquet, qui pour moi va être dans les meilleures équipes du monde sous 2 ans. T'as le petit Maïté, t'as le petit Djaoui Cissé. Ouais. Et derrière, c'est ce mélange jeunesse et derrière expérience avec, t'as du Lilian Brassier, même s'il a pas été bon du tout contre Angers.
Brissamba,
Rouault, Frankowski, Merlin, Rongier, Seko Fana, Madi Camara, Mbolo, et la petite sensation Esteban Le Poll.
Et puis stabilité.
Ludo Blas, El Tamari, si t'arrives pas à un match par semaine avec le travail, la compétence de Bichard et de Bey d'impacter les rencontres et de faire une vraie dynamique de résultats, alors là, moi, je serais très déçu. Sincèrement, parce que je donne du respect à ces coachs-là, je donne du respect à ce projet.
Du respect, de l'estime.
Et de l'estime. Mais maintenant, il va falloir que ça se retranscrive devant notre écran de télé.
Et puis, il y a une stabilité financière qui est quand même détonnante par rapport au reste
de la Ligue 1.
C'est un luxe aujourd'hui qui est énorme.
Et tu pourras même remettre au pot en janvier si t'es 4e ou 5e pour essayer d'améliorer ton effectif.
Ça, c'est sûr. On va pas parler, bien sûr, de l'apport du public.
Après, le stade.
Mais la stabilité financière de Rennes aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est un luxe sans nom pour les clubs de Ligue 1.
Ah oui,
soit Rennes,
beaucoup,
Marseille,
Ligue 1,
Monaco,
très peu.
Le PSG, déjà rien que par la stabilité financière, tu dois te dire que voilà, t'es sûr d'avoir ton salaire à la fin du mois, t'es sûr de passer la DNCG, et malheureusement il y a très peu de clubs qui peuvent se targuer de ça, mais moi je pense quand même que tous les voyants sont, je vais pas dire au vert, mais tous les voyants
ça
sont...
Ça me fait un peu mal moi là, le nul contre Angers me fait un peu mal.
Est-ce que match à la reprise Rennes-Lyon
là il faut taper du poing sur la table.
T'es convaincu par les compétences d'Habib Bey toi ou? Moi, je pense que le discours, il est. Moi, avec Walid, faut dire la vérité, je l'ai beaucoup suivi en national. Alors les gens vont dire, c'est la nationale. Le national, c'est très dur.
Monte en national. Bon courage.
Ouais, c'est très dur. Alors oui, ils avaient des moyens, faut le dire aussi.
Ah oui, ils avaient des moyens.
Ils avaient un bon directeur
sportif. Deuxième ou troisième budget.
Voilà. Donc il a. Mais il faut même quand t'as les moyens, faut remplir les objectifs. Il arrive l'année dernière. C'est quoi l'objectif? Maintenir un club comme Rennes qui était en énorme difficulté avec Sampaoli qui est pas le dernier des entraîneurs quand même. Même si c'est un entraîneur particulier, il a rempli l'objectif. Oui, la fin de saison, c'est parti un peu en vrille, mais je n'ai pas l'impression que ce soit forcément de sa faute. Là, cette saison, il a un recrutement qui est intéressant, mais qui est quand même tardif. Tu as 2 attaquants qui arrivent là cette semaine. Va falloir lui laisser
le temps.
Il a pris 3 rouges en 2 matchs. Donc, il a des jeunes joueurs. Il travaille avec des jeunes.
Il a demandé de l'expérience. Il a eu son mercato.
Quand je te dis qu'il a des jeunes joueurs, c'est qu'un des rouges, c'est quand même un très jeune joueur qui maîtrise pas son intervention contre Marseille, qui te plombe le premier match.
Mais qu'il a décidé de mettre sur le terrain par rapport à l'exigence qu'il a voulu mettre en place. Et c'est très, très bien.
C'est quand même des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs, c'est pas facile. Il faut les former. Il faut les forger aussi.
Moi, je pense que ça va être une équipe qui va être très intéressante. Face à des grosses équipes,
oui,
pour s'adapter,
bah oui.
Parce qu'ils ont les qualités en transition. Maintenant,
bah
c'est sur les blocs bas.
Oui,
mais il va falloir trouver la solution. Et lui,
si t'as pas joué Neves qui te met 2 ciseaux dans la surface en 20 minutes.
Non, mais au Red Star, il avait trouvé la solution face au bloc bas avec des joueurs qui impactaient, qui étaient très très haut.
Une défense à 3. Énorme défense.
Avec.
Je voulais voir les analyses de Walid Acharchour sur la défense qu'il avait mis en place au Red Star, ou l'attaque qu'il avait mis en place au Red Star en Ligue 1.
Mais avec beaucoup de risques, il avait des bonnes lectures de match aussi au Red Star, j'aimerais les voir aussi à Rennes. Parce que là, par exemple, contre Angers, j'ai trouvé que c'était un peu attentiste. C'était du poste pour poste sur la fin de match. Et sa lecture de match, pour moi, elle est décevante. Donc, on va attendre, bien évidemment. Et ce match contre Lyon, t'as bien fait d'insister là-dessus, Jimmy. Ça peut être un point de bascule. Est-ce que t'es en haut? Est-ce que tu fais 6 points, tu reviens à 3 points de Lyon? Tu fais 7 points. Tu fais 7 points en 4 matchs. Le bilan, il est plutôt sympathique. Ou tu fais 4 points en 4 matchs. Et là, ça n'a pas la même gueule. gueule quand même. Et surtout, t'es à Roazhon Park avec l'apport du stade, complet, avec l'apport du stade, public, avec l'apport du public. Et voilà,
effectif au complet après. Exactement. Normalement, il y a de quoi bien faire.
Mais voilà, les gars. Moi, je suis dans la salle d'attente pour Rennes.
Très bien.
J'ai le GQ, j'ai le France Foot, j'ai même le téléphone. Il y a 45%.
Walid, il passe sa journée dans la salle d'attente.
Ah non, mais j'ai le France Foot, je feuille.
T'as le VSD ou pas?
Non, je feuille.
Je feuillette.
Je feuille.
Ah, tu feuilles, toi?
Ah, moi, je feuille.
Tu feuilles.
Toi, tu feuilles. Ah, non, mais je feuille. À l'ancienne, c'est à l'ancienne. C'est les anciens qui disent ça.
Français, quoi.
C'est les anciens qui disent ça.
Je feuille.
Exactement.
C'est de l'argot.
Oh, les gars.
Je feuille.
Ah, les gars.
Des nouvelles des Bleus. Tiens, Ousmane Dembélé, qui est toujours à Clairefontaine, qui suit un programme adapté, nous dit Arthur Perrault, depuis son arrivée.
Putain, le groupe vit bien là-bas.
Ischio, gauche, gêne. Il participe pas à l'entraînement avec le reste du groupe. Il s'entraîne en salle avec le préparateur physique, Cyril Moine. On parlera des Bleus, bien sûr, cette semaine aussi dans Génération After. Et dans l'After, dans un instant, il sera question de Didier Deschamps. Et puis tiens, Aymeric Laporte, hein, à l'instant aussi, ça a capoté. Vous savez qu'il devait rejoindre
des
clubs Bilbao.
Non, il va pas à Bilbao.
Il va pas à Bilbao. Alors que tout le monde, tous ses ex-partenaires de Bilbao avaient liké.
On est
heureux de t'accueillir, te retrouver. Finalement, il sera pas là. Voilà.
Oh merde.
Ça a capoté.
Il va où moments. Il reste où
Pour l'instant, il est libre.
Al-Nasser, il est, on est sûr.
Al-Nasser n'aurait pas transmis les documents à temps pour son enregistrement.
Ok,
voilà.
D'accord.
Je vous conseille nos amis turcs et d'origine turque hein, d'écouter le Stepa dans Génération After, enfin, et supporters de Galatasaray. On en a parlé pendant 3 minutes. C'est dispo en podcast déjà. Merci Jimmy.
Merci,
merci
à toi.
Kevin. Merci Walid.
Merci à toi, Nico. Ne change pas.
Je ne changerai pas.
Enfin, un peu quand même.
Et en plus, on a gagné aujourd'hui. Allez, à tout de suite. L'After continue sur RMC.
Génération After.